Alors, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de renouveler en fait cette expérience des rencontres de l'université. Donc, je vais très rapidement présenter un petit peu le but de ces rencontres et puis rappeler un peu comment elles fonctionnent. On va aussi introduire un peu le sujet. Donc en fait, les rencontres de l'université, c'est une idée qu'on a eue ensemble, Madame Ménès et moi-même. L'idée en fait étant que, enfin, on s'est rendu compte que nos thèmes de recherche intéressaient souvent nos copains, et on s'est dit que peut-être que ça pouvait intéresser plus largement, et que c'était un peu dommage en fait de cloisonner les résultats de la recherche universitaire uniquement à l'enceinte universitaire. Et que c'était essentiel aussi de les ouvrir aux professionnels, aux associations, aux citoyennes et citoyens, et de faire en sorte que les sujets sur lesquels on travaille soient ouverts le plus possible. D'une part parce que nous, ça nous fait plaisir de parler de nos recherches, mais aussi parce que souvent, on manque en fait d'un regard de praticien ou du regard d'une praticienne. Et sur ces sujets-là, ça nous semble absolument crucial d'avoir des échanges avec le terrain. Donc, en réfléchissant, on a songé à vraiment faire porter ces rencontres-là sur le droit des personnes en tant que telles. Madame Ménès travaillant depuis longtemps déjà sur l'histoire du droit des femmes et moi travaillant sur la question du genre et du droit, eh bien, c'est sous cet angle-là qu'on a décidé d'aborder nos recherches. Et donc pour cette année, en fait, on a choisi le thème de l'enfermement. Donc en décembre, et les étudiants le savent bien, étudiantes, on avait choisi la question des établissements pénitentiaires, donc du statut des femmes des femmes incarcérées, et des différences qu'il pouvait y avoir en termes de genre, de la façon dont le droit pouvait produire des stéréotypes de genre, des inégalités que ça pouvait générer, etc., etc. Et on avait reçu à cette occasion donc des avocates et avocats, des historiens du droit et également des professionnels du secteur associatif qui étaient chargés de la réinsertion de ces femmes. Et donc on poursuit ce cycle aujourd'hui avec la question de la rétention administrative et de l'hospitalisation sans consentement. Alors, ces deux types de privations de liberté qui sont institutionnalisées, juridicisées, elles ont des traits communs avec l'enfermement pénitentiaire dont on a déjà parlé, mais elles ont aussi de grandes différences. Et on le rappelait avec les étudiantes et étudiants du Master Droit de la Santé et Protection des Personnes ce matin, parce que les étudiantes et étudiants sont là depuis 9h et travaillent d'arrache-pied, n'est-ce pas ? Et donc, on rappelait ce matin qu'en fait, il y avait quand même une différence en termes de chiffres qui était magistrale, puisque dans l'incarcération, on est à 4% de femmes incarcérées. Dans la rétention administrative, c'est à peu près 5-6%. Et puis, en psychiatrie, on est plutôt autour de 40%. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a ces différences en termes de genre. Donc l'idée c'est de regarder ces différences, mais c'est aussi de sonder les points communs en fait, de regarder s'il y a des points communs entre les différentes formes de privation de liberté. Donc voilà un peu comment on peut introduire le sujet, et puis on a vraiment choisi d'associer l'histoire aussi à ça, mais là je te laisse.
Merci Maïté. Alors je parle dans le micro, sinon ça n'enregistre pas, m'attendis. Donc merci Maïté, et puis vraiment je le redis encore officiellement, mais la maternité du projet c'est vraiment Madame Saulier. Moi j'avoue que comme tu m'avais déjà sollicité pour travailler avec toi en 2022, j'avais apprécié la collaboration. Et puis en discutant, vous savez, quand on prend le train, etc., qu'on va dans des colloques, on parle, et l'idée a germé comme ça de faire quelque chose avec les étudiants et le monde professionnel. Et puis c'est vrai que moi j'aime toujours bien faire les introductions, vous savez, aux colloques, la petite part d'histoire du droit, où Catherine ou moi sommes régulièrement sollicitées à Cergy, donc on a cette chance-là ici. Très particulièrement de pouvoir intervenir aussi avec nos collègues positivistes, dans le bon sens du terme aussi cette fois. Non, parce qu'on pourrait se méprendre. Quand les historiens du droit, disons, le positivisme, c'est... Entendez-le comme ça, pas autrement. Donc moi, je suis très contente parce que je peux parler de mon Moyen-Âge préféré à chaque fois, je suis ravie. Mais aujourd'hui, je vais vous faire grâce quand même. Et quelques petits rappels peut-être. Donc déjà, les étudiants et les étudiantes, pour les deux sessions, je vous félicite parce que vraiment, j'ai été très surprise de la qualité, agréablement surprise de la grande qualité de vos travaux. Et surprise aussi que beaucoup d'entre vous choisissent les thématiques historiques qu'on vous avait proposées. Donc je vois que ça a toujours beaucoup d'intérêt à vos yeux et ça me fait très plaisir. Et comme on l'a constaté la dernière fois et ce matin encore, effectivement, les notions, les axes sont très redondants. On se rend compte que finalement, les problématiques d'il y a plusieurs siècles reviennent. Donc c'est aussi, je pense, l'intérêt pour vous d'avoir un regard un peu plus large et puis d'associer les professionnels, on en a absolument besoin. C'est ce qu'on disait juste tout à l'heure avec Serge Lanfi. Nous, les universitaires, avons des approches plutôt théoriques, on a les chiffres, mais on n'a pas la réalité du terrain. Donc on a besoin de la réalité du terrain qu'on ne peut pas percevoir malgré... Toi, je sais que tu vas beaucoup sur le terrain, mais malgré ça, on n'en a pas la pratique. On peut voir, on peut déduire des choses, on peut poser des questions, mais on n'a pas la pratique. Donc ça, déjà, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais vous rappeler, parce qu'à chaque fois, j'oublie, si tout le monde en est d'accord, on enregistre l'audio de la conférence et on a une restitution de l'audio avec les diaporamas, en général sous une semaine, 15 jours. Donc on a à votre disposition l'audio de la première séance du 9 décembre. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à nous le demander, c'est juste un lien qu'on peut envoyer par mail. Et l'idée, c'est aussi que tout le monde, tous les gens, toutes les personnes présentes ici, puissent utiliser l'information. Les professionnels, s'ils en ont besoin, vous les étudiants, si vous en avez besoin, les autres collègues universitaires, s'ils veulent reprendre des recherches qu'on a proposées, c'est à disposition. Donc vraiment, l'idée, c'est, je crois que le premier est déjà sur le site de la faculté, donc vous pouvez accéder, et pour ceux qui n'ont pas accès au site à notre ENT, bien évidemment, on envoie par mail, et ça nous paraît important de diffuser aussi largement. Donc je ne parlerai pas aujourd'hui, puisque comme vous avez vu la dernière fois, j'ai largement débordé, donc je ne réitérerai pas mon exploit, je vais laisser Catherine le faire aujourd'hui. mais quelques mots juste sur les deux thématiques du jour. Pour ma part, j'ai fait des recherches sur les deux axes et rien ne m'est apparu pour la rétention administrative. Ça n'existait pas. Si on prend la fin du Moyen-Âge, le début de l'Ancien Régime, on n'a pas du tout de considération de femmes qui seraient arrêtées, expulsées. Les seuls aspects judiciaires qui peuvent intervenir concernant les étrangers, et ce matin on en a un petit peu parlé, c'est sur la question du droit des successions. Les aubains n'ayant pas le droit de succéder, les litiges judiciaires portent sur les revendications, les demandes de succession. Mais on n'a pas de à ma connaissance, hein, de questions sur quelque chose qui s'apparenterait à de la rétention administrative pour expulsion. Par contre, effectivement, vous l'avez dit, et je le redis à tout le monde, il y a les migrants, les étrangers utiles et les étrangers dangereux. Donc on fait cette distinction entre ceux qu'on appelle, ceux auxquels on va donner des lettres de naturalité, et puis ceux qu'on n'aime pas trop avoir, qu'on va bannir, qu'on va exclure, qu'on va aussi placer dans des hôpitaux qui sont pas que des hôpitaux, des prisons, des espaces un peu particuliers. Par contre, sur l'autre thématique de l'hospitalisation sans consentement, là on a matière. En histoire du droit, on a toutes les filles abandonnées qui sont majoritaires, plus de femmes, bébés, filles abandonnées que de garçons. Donc c'est léger, c'est autour de 53-54% de filles, ce qu'on en connaît, hein, bien évidemment. On n'avait pas de registre d'état civil, on n'avait pas de documentation très particulière pour nous donner des chiffres exacts, mais des chercheurs ont réussi à déterminer quand même qu'il y avait une majorité de filles. C'est l'ancien droit d'exposition romain. C'est les parents qui peuvent abandonner des enfants qu'ils ne désirent pas, ou surtout qu'ils ne peuvent pas nourrir. En fait, la question, c'est souvent qu'on ne peut pas nourrir, donc on abandonne. Donc il y a ça. Et puis la grande majorité, et ça a été évoqué déjà, c'est la question de la prostitution. Donc la grande majorité des femmes hospitalisées dans des hôpitaux, c'était des prostituées. Et si vous vous posez la question du soin, c'était qu'il fallait leur enlever leur perversion. Il fallait les soigner, les faire se repentir, les faire changer de posture et de métier, plus que les soigner dans le sens médical, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Donc ça, on a beaucoup de documentation là-dessus. Et donc on a des lieux aussi d'enfermement. J'avais parlé la première séance des couvents, par exemple. Nous avons une masse d'hôpitaux qui, sous le nom d'hôpitaux, sont des lieux d'accueil pour les malades, mais aussi pour les prostituées, les jeunes filles enceintes qui ont fauté et qui sont tombées enceintes alors qu'elles n'étaient pas mariées. Voilà, on a ce genre de population qui est assez nombreuse, et des lieux dédiés. On a parlé de la Salpêtrière ce matin, je pense que Catherine en parlera un petit peu. On a le Saint-Lazare, l'infirmerie Saint-Lazare. Donc il y a des lieux, il y a des hôtels Dieu de filles abandonnées, filles de Dieu, etc. dans à peu près toutes les villes, les grandes villes de France. Donc on a et des lieux et des populations spécifiques de femmes qui sont dans ces lieux-là. Donc on a vraiment une population qui est spécifique. Et alors il y a des personnalités, des femmes qui sont connues particulièrement. Donc on n'en a pas parlé, mais peut-être le nom de... Alors c'était Anne-Joseph Théroigne de Méricourt qui a fait partie de ces femmes qui ont été emprisonnées, hospitalisées. Donc on a pas mal d'exemples historiques, beaucoup connus 18e, 19e siècle, un petit peu moins connus avant. Des noms qui ne vous parleront pas, mais voilà, on a une population qui est population féminine assez largement incarcérée contre sa volonté. Et puis on a aussi les incarcérations qui relèvent du droit de correction, les maris, les pères qui incarcèrent les filles volages, les filles qui sont un petit peu gênantes pour les remettre dans le droit chemin. Donc il y a toujours dans cette enfermement, l'idée qu'on va guérir de quelque chose, qu'on va réhabiliter d'une certaine manière. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez constant. Voilà. Sans prendre trop la parole, parce que vous savez que je peux être...
c'est le cadre général. Non, je voudrais juste ajouter qu'on est le 10 mars, ça ne vous a pas échappé, on est à deux jours de la Journée internationale des droits des femmes. Je voudrais juste rappeler que si on était américaine, on serait certainement pas en train de parler de ces sujets-là, puisque maintenant c'est impossible, ou quasiment, et que, en tout cas pour ma part, ça rend d'autant plus important de s'intéresser à ces questions-là aujourd'hui, et que les privations de liberté dont on parle sous un angle historique sont peut-être plus historiques que ça, donc il faut aussi avoir conscience des dangers qui sont en train de se développer, y compris dans certains États dont on dit qu'ils sont encore des démocraties, mais en tout cas, c'est des sujets, les études de genre, qui sont en danger aujourd'hui, donc je trouve que c'est d'autant plus important d'en parler et d'en faire que certains de nos collègues et certaines de nos collègues ne peuvent plus le faire en toute liberté, la liberté académique étant complètement menacée. Donc, pour aujourd'hui, en tout cas, et puisqu'on peut le faire, nous recevrons quatre intervenantes. Donc, vous avez le programme ici en bas de cette page, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, Catherine Odéhoud, que vous connaissez, qui est maîtresse de conférence en histoire du droit à l'Université de Cergy. Karine Parot, qui est professeure et qui va nous rejoindre dans quelques minutes, accompagnée de ses étudiantes et étudiants d'ailleurs, qui interviendra sur la rétention administrative. Rim Mansour, qui est donc une ancienne médecin généraliste au centre de rétention administrative du Canet, dont on a parlé ce matin, puisqu'on a revu l'histoire du scandale d'Arringues, donc ça nous a donné l'occasion de, de parler de Marseille, et qui est désormais donc, au comité international de la Croix-Rouge, si je ne dis pas de bêtises, et puis maître Philippine Parastatis, qui est avocate au barreau du Val-d'Oise et qui va nous faire part de son expérience en tant qu'avocate et de son expérience de praticienne. Donc voilà, surtout, et c'est le principe de ces rencontres aussi, n'hésitez pas à prendre la parole, à poser des questions après chaque intervention. C'est une chance en fait pour vous en tant qu'étudiante et étudiante d'avoir des professionnels j'allais dire à disposition, peut-être pas quand même, mais bon, voilà, en tout cas devant vous. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions, plus c'est vivant mieux c'est, donc vraiment il ne faut, faut pas hésiter. Donc bah, on va laisser la tribune, je crois.
Oui, tout à fait.
Donc Catherine, on te laisse la parole en premier. Oui, comme tu préfères. On peut rester là. Ça permet de faire des choses. Si tu veux. Elle arrive dans.
Juste la collègue va arriver avec des étudiants, donc il y aura peut-être un petit peu. On fera peut-être une pause de minutes le temps que tout le monde s'installe. Mais.
Bien, donc merci à Maïté, merci à Valérie pour l'organisation de cette belle rencontre. Merci aussi de me faire confiance pour la deuxième fois, malgré mes débordements. La première fois, il y a quand même beaucoup d'indulgence. Alors, mon sujet donc s'affiche, la loi de 1848, dite loi des aliénés, la loi Esquirol, du nom du médecin aliéniste, qui est donc à l'origine de ce texte, et voilà, qui lui a laissé son nom. Alors, cette loi Esquirol ne sort pas de rien, hein, puisque avant la loi existait, tout à l'heure Valérie l'a évoqué rapidement, l'hôpital général, qui n'a rien d'un lieu de soins. L'hôpital général, vraiment, porte très mal son nom. Il y avait les hôtels Dieu pour soigner et les hôpitaux généraux. L'hôpital général, c'est une vaste prison, en fait. C'est un regroupement d'institutions qui relève de l'hospice, de l'asile, du dépôt de mendicité, où on enferme toutes les marginalités, toutes les personnes un peu gênantes pour l'ordre social. Effectivement, les prostituées, on en a parlé, les vagabonds, les enfants abandonnés, les vieillards, etc., etc. Toutes les misères sociales sont enfermées là. Et cette création date de Louis XIV, et c'est le début de ce que Michel Foucault appelle le grand renfermement. Cet État central qui s'organise et qui cherche à enfermer tous les marginaux. Alors on va rajouter des maisons de force, des dépôts de mendicité, maisons de force plutôt des prisons, dépôts de mendicité, on comprend. Enfin, tous ces lieux, ce qui les caractérise, c'est une grande variété de ces lieux, de leur appellation, et une grande variété d'internés. Puisque finalement, il y a un mélange de populations qui est absolument effarant. Par exemple, la Salpêtrière, lieu d'enfermement des femmes que Valérie a évoqué tout à l'heure. Donc on voit au début du XVIIIe siècle, sur les 4000 internés, il y a une moitié d'enfants, en gros, hein, de moins de 15 ans. Voilà, vous avez toute la liste, estropiés, vieux mariés, correctionnaires, donc internement pour des raisons pénales, si vous voulez, vagabondes, gueuses, femmes en enfance, d'une extrême vieillesse, épileptiques de divers âges. Alors les épileptiques, c'était souvent les syphilitiques. On ne savait pas guérir les syphilis au XIXe siècle, il faut attendre le XXe siècle avec l'arrivée des antibiotiques. Et donc la phase terminale de la syphilis amenait la paralysie du système nerveux central, si bien que ces personnes étaient assimilées à des démons et enfermées dans les asiles. Alors, un changement se fait jour dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, où on commence à changer d'appréciation sur la personne des aliénés. Jusque-là, l'aliéné, c'est une personne enfermée, dangereuse, une criminelle ou bientôt criminelle. On voit en 1785, avec le titre de cet ouvrage de deux médecins, on voit que les choses changent. instructions sur la manière de gouverner les insensés et de travailler à leur guérison dans les asiles qui leur sont destinés. Idée de soins, puisque là on disait qu'ils étaient incurables, idée de soins et idée d'établissement spécifique. Alors c'est là-dessus que va se greffer le geste un peu mythique, hein, fondateur de l'aliénisme, c'est le docteur Pinel qui va ôter les fers des femmes aliénées retenues à Bicêtre. Bon, l'image est un peu usurpée, ça fait partie maintenant voilà, de l'imagerie populaire, mais on sait... Les historiens ont montré que, en fait, ça n'est pas le docteur Pinel hein, qui a ôté les fers des aliénés, mais plutôt le médecin de son établissement, le surveillant, pardon, de son établissement, qui était lui-même un ancien aliéné et qui s'appelait Pucin. Mais en tout cas, voilà, c'est la statue de Pinel que l'on trouve à l'entrée de la salpêtrière. Alors, l'insensé, donc, change de statut en cette fin du XIXe siècle. L'insensé qui était privé de sens devient l'aliéné. On doit le soigner par le moyen de l'isolement, par le moyen d'un traitement moral. Le docteur Pinel met en avant le traitement moral. Ne me demandez pas de vous expliquer en détail ce que c'est le traitement moral au XIXe siècle, que ce soit à la sauce Pinel ou à la sauce Esquirol, qui est le disciple de Pinel. Pourquoi ? Parce que ce traitement moral, en fait, en théorie, est fait de discussion avec la personne aliénée, mais en pratique, il y a beaucoup de contentions et beaucoup de traitements hydrothérapiques, alternance de bains chauds, de bains froids, ça laisse un petit peu songeur, évidemment, aujourd'hui. Alors, pourquoi une loi ? Donc, elle intervient en 1838. En fait, il faut voir là l'action du mouvement philanthropique. Ce mouvement philanthropique est une association de notables très actifs sous la Restauration et qui plaide pour l'amélioration des prisons, la création d'asiles pour les aliénés, pour aussi la catégorisation des populations dans les établissements, c'est-à-dire le retrait des enfants des prisons pour adultes, beaucoup d'enfants propiciés dans ces établissements, le retrait des femmes pour mettre en place des établissements spéciaux, et on plaide aussi pour l'alphabétisation, lutte contre la prostitution, etc. Enfin, c'est un peu la charité organisée à tous les niveaux. Et dans cette même période, le docteur Esquirol, donc disciple de Pinel, produit un rapport sur les établissements consacrés aux aliénés et des moyens de les améliorer. Rapport remis au ministère de l'Intérieur. Toujours cette idée donc de soins spécifiques à apporter aux aliénés. La monarchie de Juillet arrive, donc de 1830 à 1848. La monarchie de Juillet est un régime assez policier. On l'a un peu oublié aujourd'hui parce que c'est les origines du parlementarisme. Mais c'est un régime policier qui va durement réprimer notamment les grèves, toutes les émeutes. La grève des canuts, par exemple, est réprimée dans le sang en 1831. Donc ce régime veut protéger l'ordre public. À côté de ce souci de protection de l'ordre public, il y a aussi un souci humaniste, humanitaire, effectivement, de protéger les aliénés. La monarchie de Juillet a aussi adouci le code pénal, par exemple, en 1832. Donc voilà, c'est une politique un peu ambiguë, d'autant plus que les aliénistes sont là et font pression pour que leur science soit reconnue. Parce que l'aliéniste, bon, c'est l'ancêtre du psychiatre, mais l'aliéniste n'était rien au milieu des médecins, sa science n'était pas vraiment reconnue. Donc les aliénistes veulent que des établissements spéciaux soient mis en place, de façon aussi à leur assurer une place quoi, au sein de la science médicale. Donc le docteur Esquirol publie son ouvrage sur les maladies mentales, dans lequel il nous laisse une définition en 1838. Qu'est-ce que la maladie mentale ? La démence est une affection cérébrale, ordinairement sans fièvre et chronique, caractérisée par l'affaiblissement de la sensibilité, de l'intelligence et de la volonté. C'est quand même assez vague, hein ? Ça, il faut le reconnaître. On est toujours étonné quand on plonge le regard dans les ouvrages des médecins. Bon, j'ai eu l'occasion de le faire jusqu'à la Première Guerre mondiale et tout ce que j'ai lu, notamment sur les femmes, m'a vraiment beaucoup étonnée. Parce qu'on peut se dire, les juristes, ils sont un peu trop imbus de droit romain, mais les médecins quand même, qui incarnent la science médicale, ils sont peut-être les plus féroces sur les femmes. Donc la loi de 1838 met 18 mois à voir le jour. La question a beaucoup tourné autour des engagements financiers des départements qui seront mis à contribution pour construire des asiles. La loi leur impose la construction d'un établissement public destiné à recevoir les personnes aliénées. Mais les départements peuvent traiter aussi avec des structures privées qui existaient déjà au préalable ou avec un autre établissement public d'un département voisin, par exemple. Si bien qu'à la fin du 19e siècle, en gros, un tiers des départements ne sont toujours pas dotés d'un asile public. Donc avec ce système, on a une très grande variété d'établissements, des asiles départementaux publics, des pensionnats payants au sein des asiles publics et des maisons de santé privées. Alors on a l'habitude d'appeler asile toutes ces structures. Normalement, le mot asile, il est plutôt réservé aux asiles publics. Mais comme on n'a jamais eu le territoire couvert d'asile public, on a englobé voilà, toutes ces structures. Alors, par exemple, vous avez la maison de santé, donc structure privée, où la fille de Victor Hugo a été internée pendant 30 ans, fin 19e, début 20e siècle, à Suresnes. Autre structure mixte, puisque c'est un pensionnat dans un asile public, où Camille Claudel a été internée. Bienvenue à tous les étudiants qui nous rejoignent, à Karine aussi. Donc on est en train d'évoquer la loi Esquirol, qui est la première loi sur les aliénés. On l'a appelée aussi la loi des aliénés. Elle porte le nom du docteur Esquirol, qui en est plus ou moins à l'origine. Et on disait que cette loi avait mis en place différentes structures. Elle imposait aux départements la création d'un asile d'aliénés, mais les départements pouvaient très bien traiter avec des structures privées ou un asile public d'un département voisin, parce que souvent ça coûtait moins cher que de construire eux-mêmes la structure. Donc différents pensionnats où a été interné Camille Claudel notamment. Alors, on va voir comment se passe l'entrée à l'asile pour les femmes, et ensuite on verra d'autres structures parallèles qui ne sont pas mentionnées dans la loi de 1838, mais qui ne sont pas condamnées non plus. Donc différentes structures vont cohabiter pour l'internement des femmes au XIXe siècle. Alors l'entrée à l'asile, d'après la loi de 1838, se fait soit sur placement volontaire, mais attention, la terminologie est trompeuse, parce que le placement volontaire se fait à la demande de la famille le plus souvent. Les parents, les conjoints, parfois l'employeur, s'il y avait trouble sur le lieu de travail, avec l'appui d'un certificat médical. Le placement d'office, lui, se fait à la demande des pouvoirs publics. Le préfet de police à Paris, le préfet dans les départements, le préfet c'est vraiment l'agent de centralisation napoléonien, hein, tout remontait au pouvoir central, au ministère de l'Intérieur au XIXe siècle. Le maire également pouvait intervenir s'il y avait danger imminent. Toute la question, c'est de définir la notion de la dangerosité, voilà, s'il y a atteinte à l'ordre public, atteinte à la sûreté des personnes. Mais dans tous les cas de figure, la personne aliénée, donc la femme en l'occurrence, se voit privée de ses biens en entrant à l'asile et coupée aussi de ses liens familiaux. De façon plus ou moins stricte, les institutions privées apparemment maintenaient davantage les liens avec la famille, mais les aliénistes partaient du principe que l'isolement était thérapeutique, donc il fallait couper les liens avec la famille. On va changer d'avis vers la fin du XIXe siècle. Les aliénistes diront qu'il faut quand même essayer de préserver les liens conjugaux et les liens de filiation pour favoriser la guérison. Donc cette notion de dangerosité qui est prévue par la loi est très élastique et on le voit à travers ce certificat médical qui date de 1880 que j'ai extrait d'un ouvrage d'Anatole Lebras sur l'aliénation mentale, une histoire de la folie au XIXe siècle. J'en reparlerai plus loin, c'est un ouvrage qui a essayé d'explorer en fait les dossiers individuels parce que Autrefois, dans le sillage des recherches de Michel Foucault, on privilégiait plutôt les recherches institutionnelles, les archives institutionnelles de l'administration médicale ou de l'administration préfectorale. Aujourd'hui, on travaille davantage sur les dossiers individuels qui complètent bien, évidemment, l'aperçu que l'on avait au préalable. Alors, Marie-Louise a 22 ans, elle demeure à Quimper depuis 2 mois, elle est idiote, n'a jamais eu d'accès de fureur, n'a jamais frappé, mais elle quitte la maison et reste absente toute la journée. Il faut lire en filigrane, elle peut être vagabonde, et le vagabondage au 19e siècle était considéré comme le terreau du crime. Les tribunaux étaient extrêmement sévères, même pour les enfants vagabonds. Je poursuis. Incapable d'offrir la moindre résistance à qui que ce soit, elle pourrait devenir la victime des passions les plus brutales. Comprendre, elle pourrait être une proie sexuelle. Alors, l'inquiétude, finalement, des médecins au XIXe siècle et de la population, même en général, je pense, n'est pas tant la protection de la personne vulnérable que le péril de ce que l'on appelait la dégénérescence de la race. Et cette thématique de la dégénérescence de la race est fortement mise en avant par le lobby militaire, par le lobby médical aussi. On voulait à tout prix éviter la procréation des aliénés, d'où ce que l'on appelait la grande séparation dans les asiles entre les hommes et les femmes. Je poursuis ma lecture. De plus, alors oui, il faut comprendre que cette crainte de la dégénérescence de la race, elle est ravivée, hein, elle reprend des couleurs avec la défaite de la France contre l'Allemagne en 1870. D'ailleurs, ce certificat médical date de 1880. Alors, je poursuis, inconsciente de ses actes, elle pourrait mettre le feu et devenir ainsi un danger très sérieux. Deuxième péril, l'incendie, fortement réprimé au XIXe siècle, surtout dans une France rurale. Mais ce qui frappe, c'est qu'il y a beaucoup de conditionnels, hein. On le voit, elle pourrait. En conséquence, il y a lieu de la faire entrer dans une maison d'aliénés. Donc voilà l'entrée à l'asile qui peut reposer sur un certain nombre de conditions plus ou moins évasives. Et le parcours asilaire est aussi très différencié entre les hommes et les femmes au XIXe siècle. Alors là, c'est un tableau extrait du docteur Esquirol sur les maladies mentales. On frémit un peu hein, en lisant ce tableau. Tous ces tableaux ne se ressemblent pas, mais en gros, on se rend compte que toutes les périodes, toutes les étapes de la vie d'une femme peuvent être la porte ouverte vers la folie. La puberté, les menstruations, les temps critiques, la ménopause, les suites de couches, la vieillesse, etc., etc. Alors on rajoutait des causes morales. Et Pinel, je crois que c'était Pinel, ou Esquirol, je ne sais plus, notait que parmi les causes morales, il pouvait y avoir les excès d'études. Mais que les excès d'études concernaient plus les hommes que les femmes. Alors là, on est bien rassurée. Mais.
Les doctorants.
Les excès d'études, l'amour contrarié, les ambitions trompées, donc il y avait des tableaux, enfin voilà, je vous passe le détail, vous pourrez les retrouver sur Gallica, tous ces savants tableaux. Alors, la science statistique vient au secours des femmes parce qu'elle nous apprend. En 1856, c'est la grande période des études statistiques, le 19e siècle, c'est le début, en fait, hein, la création du casier judiciaire, etc. On veut lutter contre la récidive, donc on dresse des tableaux et des tableaux, même pour les pathologies mentales, hein, je vous épargne tous ces tableaux. Donc, la science statistique nous dit que la folie est une maladie à laquelle l'homme serait plus prédisposé que la femme. Et en effet, si on compte les admissions dans les asiles, il y a plus d'hommes admis chaque année, que ce soit à la ville ou à la campagne. 53, 54, 55%, enfin ça tourne autour des 53%. Pourquoi ? Parce que l'asile est un lieu de régulation des conflits conjugaux aussi. Beaucoup de maris alcooliques seront internés, de maris violents. Alors, l'épouse ne peut pas forcément demander le placement volontaire, entre guillemets volontaire, parce qu'elle est une incapable juridique. Elle peut passer par les beaux-parents, s'ils sont d'accord, ou contourner le dispositif en allant voir le maire. Et le maire va pouvoir décider. décider du placement d'office. Donc, plus d'hommes que de femmes, mais les femmes restent plus longtemps à l'asile. Donc, si vous faites des statistiques globales, il y a toujours plus de femmes internées dans les asiles de France que d'hommes. Cela dit, il y a beaucoup de femmes qui ressortent, entre guillemets, guéries ou améliorées, si tant est qu'on pouvait guérir ou améliorer au XIXe siècle. Mais on trouve dans les archives aussi beaucoup de lettres d'hommes qui réclament le retour de leur femme à la maison. D'ailleurs, dans ces lettres, on voit bien la conception instrumentale des femmes. Monsieur le directeur de l'asile, je vous prie de bien vouloir autoriser la sortie de ma femme de votre établissement, parce que depuis qu'elle est internée, je cite, « tout est en désordre dans ma maison ». Et donc, voilà, ce serait bien qu'elle revienne. Et on se rend compte que les femmes mariées, effectivement, sortent plus vite. Parce que les médecins estiment que leur famille les attend ou qu'elles auront un appui à la maison. Elles seront surveillées, si elles vieillissent, elles seront soutenues à la maison. Alors que les femmes célibataires ou veuves restent plus longtemps à l'asile parce qu'elles n'ont pas de soutien et que les médecins hésitent à laisser des femmes, si vous voulez, en liberté, entre guillemets, sans suivi, sans surveillance. Et puis, les femmes âgées restent plus longtemps à l'asile, d'autant plus qu'au XIXe siècle, l'espérance de vie des femmes était déjà plus élevée que celle des hommes. Donc apparemment, c'est une constante. L'asile tenait lieu d'hospice. En fait, l'État va mettre en place des hospices à partir de 1905 seulement. Hein. C'est la grande loi sur les vieillards incurables, l'assistance aux vieillards infirmes et incurables. Donc jusque-là, c'est l'asile qui était encore le lieu d'enfermement des personnes âgées. Là, on le voit avec cette reproduction de la Salpêtrière, c'est sous le Second Empire. Beaucoup de personnes âgées, c'est un peu l'image d'Épinal, toutes ces femmes âgées qui remplissent les asiles. Alors, donc, je disais, la loi de 1838 a eu une belle longévité jusqu'en 1990, mais aussi parce qu'elle laisse fonctionner d'autres dispositifs qui ne sont pas, d'ailleurs, les femmes enfermées ne sont pas toujours comptabilisées, notamment pour l'enfermement à domicile, à ne pas confondre avec le placement familial que l'on verra tout à l'heure. Donc l'enfermement à domicile est classique, il était déjà classique au Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime, et donc il n'est pas remis en cause, d'autant plus que depuis l'époque révolutionnaire, on avait repris des vieux adages du droit romain, et donc le code pénal qui reprend texto les dispositions révolutionnaires énonce très clairement que ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou furieux étant sous leur garde ou des animaux malfaisants ou féroces, serait puni d'amende. Donc on voit l'alignement des animaux malfaisants et féroces avec les aliénés, comme c'était le cas déjà en droit romain. Et donc les familles, ont tendance à garder leurs malades à la maison. Il y a de nombreux cas, parce que ce système forcément ouvre la voie à de nombreux cas de maltraitance qui sont relatés dans la presse. Cas de maltraitance apparemment plus fréquent en zone rurale, et les aliénistes, pour eux, ces cas de maltraitance sont une véritable aubaine parce qu'ils vont en profiter aussi pour justifier le bien fondé de l'institution asilaire. Alors, dans l'enfermement à domicile, on sait qu'il y avait plus de femmes. Il y a plus de femmes tout au long du 19e siècle. C'est vrai que l'internement à domicile est considéré comme une prérogative de la puissance paternelle, et même l'homme marié, s'il estime que sa femme est démente, qu'il n'a pas envie de la garder à la maison, il va la renvoyer chez ses parents. On connaît plusieurs cas au XIXe siècle, d'épouses placées en pension chez leurs parents. Donc voilà, les femmes sont davantage séquestrées et les tribunaux sont relativement cléments, encore une fois en raison de l'article 475 du Code pénal. Autre forme d'internement, c'est le placement familial ou la colonie familiale. C'est une idée qui va germer à la fin du XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que l'administration préfectorale cherche à désengorger notamment les asiles parisiens, qui ont connu une inflation au niveau des internements je ne sais plus, entre 1838 et la fin du siècle, je crois que le nombre d'internements est multiplié par 5 ou 6, et peut-être 10 à la veille de la Première Guerre mondiale, beaucoup de placements d'office. Donc, ces institutions, bah, il faut les vider à un moment donné, parce qu'on ne sait plus où mettre les nouvelles internées. Donc, il faut les vider des malades chroniques ou des personnes âgées qui n'ont pas vraiment leur place dans un asile d'aliénés. Et en plus, en 1880, une nouvelle affaire fait sensation, c'est le crime de Clermont. L'asile de Clermont dans l'Oise était une institution modèle que les aliénistes prenaient toujours en exemple. Et dans cet asile, un surveillant assassine un aliéné, donc un aliéné homme. Mais donc la presse commence à mettre le nez dans les asiles. Plusieurs enquêtes sont menées à l'époque et l'institution asilaire, si vous voulez, commence à se lézarder. On a beaucoup moins confiance dans ces établissements. Donc l'administration veut faire de la place. L'administration veut faire de la place, l'institution asilaire est remise en cause, et le docteur Auguste Marie, jeune aliéniste, arrive sur le devant de la scène. Il avait fait sa thèse sur des expériences, on dirait aujourd'hui, d'asile hors les murs en Écosse, où des personnes aliénées étaient en pension dans des familles d'accueil. Donc en 1892, il accompagne une première cohorte d'une centaine de femmes dans le Cher, à Dun-sur-Oron, au sein de la colonie familiale pour aliénés tranquilles. Surtout les femmes âgées, toujours cette crainte de la dégénérescence de la race, accueillies par des couples âgés ou des femmes âgées isolées. Alors des expériences assez intéressantes, d'après les travaux, toujours sur dossier individuel. Généralement, les pensionnaires, c'est le nouveau nom des internés dans ces structures, les pensionnaires disent qu'elles ont plus d'autonomie. Elles apprécient d'aller au village, d'aller faire des courses, d'avoir des visites, etc. Elles se livrent à des menus travaux, aide domestique chez la personne qui l'accueille, travaux de ménage dans le village. Donc l'expérience a été étendue aux hommes plus tard dans un autre village du Cher. Et c'est une institution qui est à l'origine de l'accueil familial thérapeutique. Alors les locaux sont minimalistes dans ce genre de structure, puisque les personnes sont logées dans les domiciles on les appelait les nourrices ou les familles nourricières, femmes nourricières. Elles avaient leur chambre, elles étaient à deux ou trois dans les chambres, ou chambres isolées, ça dépendait des cas de figure. Donc la colonie familiale, c'est en fait le logement du directeur, qui était là avec sa famille. C'est une infirmerie, pour recevoir les malades qui en avaient besoin, et c'était des locaux administratifs, c'est tout. Pour aller plus loin, j'ai débordé un petit peu, je m'en excuse, je vous conseille vivement la lecture de l'ouvrage d'Anatole Lebras, Aliéné, l'histoire sociale de la folie. Il est sorti fin 2024, et justement il s'appuie sur des recherches sur dossiers de patients dans des asiles parisiens et des asiles du sud de la Bretagne. C'est intéressant de faire des comparaisons d'ordre géographique. Vraiment un ouvrage remarquable. Et l'autre, c'est l'ouvrage de Juliette Rigondet, c'est une journaliste d'investigation, originaire elle-même de Dun-sur-Oron, où a eu lieu cette expérience de colonie familiale, un village pour aliénés tranquilles. L'ouvrage date de 1999, de mémoire, ou 2019, c'est exactement, enfin, pas très ancien, donc recherche sur les dossiers de patients qui ont été conservés aux archives. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolée d'avoir un peu de problème.
Merci beaucoup Catherine, c'est toujours passionnant de t'écouter. Alors moi, j'ai deux choses qui me viennent tout de suite à l'esprit. Quand tu évoquais les femmes qui pouvaient contourner le système pour demander l'enfermement de leur mari, on sait combien les femmes ont développé de stratégies avec des autorisations judiciaires, etc., pour finalement arriver à leur fin, donc pas si vulnérables toutes quand même, comme tu nous montres. C'est toujours important, je disais là, on fait beaucoup de recherches récemment sur le genre, la posture des femmes, la place des femmes et leur vulnérabilité, mais beaucoup aujourd'hui de chercheurs arrivent à voir dans cette masse des femmes vulnérables, des femmes pas si vulnérables. Et essayer de mettre en avant aussi l'autonomie des femmes, leurs pensées, leurs actions, pour réhabiliter un petit peu cette vulnérabilité qui est toujours, que tu as encore évoqué ici. Donc j'ai bien aimé ce que tu as expliqué sur les contournements. Et puis l'autre chose que moi j'avais lu à propos de Terwan de Méricourt, dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure, quand tu évoques justement les critères d'enfermement, pour elle, qui a été enfermée jusqu'à sa mort, très longtemps, plus d'une vingtaine d'années, 23 ans. Donc elle était atteinte de la syphilis, qui provoquait, comme tu l'as rappelé, des atteintes neurologiques, et donc ça pouvait faire entrer dans la catégorie aliénée plus que malade. Il avait été question d'une enquête administrative, je crois que c'était vers 1807, parce qu'on avait soupçonné son frère, qui avait demandé son placement, d'avoir des visées sur ses biens successoraux, et donc de l'avoir fait interner pour des motifs successoraux, pour l'évacuer de la succession et pouvoir récupérer les biens de sa sœur. Donc il y avait une enquête administrative qui avait abouti par la négative. Le frère n'était pas du tout motivé par des questions de succession. Mais voilà, c'est un des exemples aussi qu'on peut donner de l'administration qui se saisit de la question d'une femme qui restera enfermée très longuement à l'hôpital. Elle avait été internée déjà quand l'enquête avait eu lieu. Ça faisait déjà une quinzaine d'années qu'elle était internée. Donc voilà.
C'était quand déjà ?
Elle a été internée. Donc l'enquête, c'était après 1807, quand elle est partie à la Salpêtrière, mais elle était internée déjà depuis 1794. Mmh. Son crime était de se mêler un peu trop de politique. C'est une lame de gouge, si vous voulez. Elle a réclamé l'égalité des femmes. Un peu trop fort, peut-être. Mais bon, donc il y avait des enquêtes administratives. C'est le début, je pense. Enfin, tu évoquais un peu ça. Donc, effectivement, ça me faisait penser à cette affaire-là aussi. Bon, elle est très, très connue, Terwan de Méricourt, pour ça. Mais la petite surveillance, quand même.
Voilà. Il y a eu Hercilly Rouy. Vous pourrez chercher sur Internet le dossier Hercilly Rouy. Elle a été internée pour des raisons familiales, tout à fait intéressées financièrement, finalement. Et, le dossier avait fait scandale dans les années 1860.
Ouais, peut-être juste une remarque, et puis après je laisserai la parole aux questions. Mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que lorsque tu parles des médecins avant les aliénistes ou des médecins aliénistes, ce sont des hommes, mais que quand on passe à l'accueil familial, ce sont des nourrices. Donc en fait, du point de vue de ceux qui prennent en charge, on a aussi une marque très forte en fait des stéréotypes du genre. On voit bien que quand on passe du professionnel au care non professionnel, ou en tout cas au développement d'une expérience hors les murs, on change aussi de genre dans la façon de procéder. Et je trouve que c'est intéressant de voir aussi ce passage-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette loi Estirolière ? Marion ?
Alors c'était très variable, par exemple pour tout ce qui était folie alcoolique, on leur faisait subir une pseudo-cure de désintoxication de quelques mois, puis ils ressortaient, mais ils pouvaient rentrer l'année suivante. Il y a eu des parcours asilaires très hachés, si vous voulez, pour les hommes. On estimait aussi que l'homme, étant le chef de famille, devait nourrir sa famille, donc il devait sortir. Parfois même les familles demandaient, les épouses demandaient la sortie, notamment du père de famille, pour qu'il puisse gagner son pain, hein, tout simplement. On est au 19e siècle, il n'y a pas de structure d'aide. Déjà, on voit aujourd'hui comment c'est compliqué. Au 19e siècle, il n'y a rien d'officiel, si vous voulez, à part les œuvres charitables, mais il n'y a rien de, pas d'aide publique officielle. Il faut vraiment attendre l'installation de la Troisième République et la création de la Sécurité sociale en 1945.
D'autres questions ?
Ah oui.
Voilà, qui a fait rire la salle. Et je dois vous dire que moi, ça ne m'a pas fait rire. Et je voudrais qu'on puisse éventuellement avoir une réflexion sur ces causes.
qui ne sont pas à prendre à la légère, selon moi, parce que je considère qu'effectivement, sur cette liste, aujourd'hui, la mettre de côté, ce serait peut-être éventuellement mettre de côté aussi la particularité de la femme. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans cette liste-là, on voit encore aujourd'hui qu'effectivement, la particularité de la femme, et donc, voilà, quelques-uns des exemples qui sont cités, peut entraîner effectivement des désordres et peut donc faire, voilà, à terme, entraîner une hospitalisation sous contrainte. Je crois, à mon sens, hein, que le danger aujourd'hui d'en rire, et bien la conséquence, c'est justement d'oublier cette particularité de la femme. Alors, au-delà des causes physiques, vous avez aussi des causes morales, et donc ça fait sourire les étudiants quand on parle de, je crois, de...
Les études, oui, mais c'est dans une autre liste, mais ça me faisait trop, j'ai... Mais vous pourrez les retrouver...
Et pourtant, je ne veux pas faire peur à la salle, hein, et pourtant, on voit un grand, grand nombre d'étudiants aujourd'hui qui quand même, dans un grand nombre de cas, en fin de parcours universitaire, font l'objet d'une hospitalisation sous contrainte parce que je n'ai pas trop de stress, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément d'étudiants. Fin de parcours universitaire qui se retrouve hospitalisé. Et sur le reste, je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est des sujets encore d'aujourd'hui, parce que oui, dire les choses clairement, hein, les désordres menstruels sont aussi un terrain qui fait que ça engendre une dépression, qui fait que ça engendre une hospitalisation. Alors j'imagine, hein, je ne suis pas médecin, mais qu'il y a un terrain quand même assez fragile à la base, mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire, que ce n'est pas du tout des sujets à la légère encore aujourd'hui, parce que vraiment, on va pas prendre l'exemple par exemple, mais le danger, c'est justement de faire effacer encore une fois cette notion de la particularité de la femme.
Je crois que la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on a mis des noms sur ces pathologies. Aujourd'hui, c'est quelque chose de connu, non ? La dépression postpartum, etc., c'est connu. Mais aujourd'hui, il me semble que la dépression postpartum est jugée moins sévère. Il me semble, j'en sais rien, est jugée moins sévèrement qu'au 19e siècle, il me semble.
J'imagine que ce n'était pas du tout une notion abordée, qu'on voulait comprendre et
qui
était effectivement justifiée. Des problématiques d'ordre psychologique, psychiatrique, qui entraînent l'hospitalisation sous contrainte. Aujourd'hui oui. Et voilà, voilà, c'était juste vous dire que bon, moi, ça ne me fait pas sourire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Ah. Oui, il y a des... sans doute, hein, qu'il y a... Des dossiers, oui, différents, j'imagine.
Il y a deux questions que je me pose pour vous répondre, maître, et peut-être soulever la question. La première, c'est, vous voyez le nombre de points qui sont attribués, là. Effectivement, les suites de couches, c'est 8 points sur 235. Alors, est-ce que c'est, de ce que j'ai compris, Catherine, on a des points, et en fonction d'un certain nombre de points atteints, on doit être interné ou...
Non, c'est, en fait, il avait comptabilisé dans l'asile où il intervenait les causes de l'aliénation chez les internés.
D'accord, voilà. Okay. Le nombre de femmes, oui. C'est pas un nombre, parce que moi je pensais que c'était un nombre de points,
non.
Et que cumulativement on pouvait...
Non, il a comptabilisé le nombre d'internés. Et d'autres tableaux établissent des comparaisons. Les établissements pour hommes, les établissements pour femmes.
Il y a un nombre de points qu'il fallait, enfin, il fallait genre 50 points pour être en terrain. Voilà.
Ah non.
C'était une cause suffisait.
Oui.
Une des causes suffisait.
Voilà, c'est la cause prédominante, si vous voulez, derrière l'internement d'une personne. Si elle est homme ou si elle est femme, ici en fait. Alors il fait des comparaisons, il nous expliquer que les chagrins domestiques, par exemple, sont très présents chez les femmes, moins chez les hommes, que les ambitions trompées sont plus fortes chez les hommes que chez les femmes, etc. Mmh. Mais bon, tout ça peut changer, parce que toutes les pathologies aussi ont beaucoup changé. Ça, c'est aussi un peu déroutant hein, au XIXe siècle. C'est un tableau parmi d'autres, mais si vous allez sur Gallica, vous cherchez cause morale, cause physique de la folie, vous tomberez sur ces différents tableaux des médecins.
Ça m'amène à la deuxième peut-être remarque. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre professionnel, on a encore comme ça des tableaux, des clés, c'est vraiment tout à fait naïf de ma part de poser la question, mais je ne sais absolument pas comment ça...
Alors, je ne suis absolument pas médecin, parce que je suis magistrate, mais ça me fait penser à une émission qui est parue sur France Culture récemment. Je pense à l'émission LSD, qui a traité des fantômes de l'hystérie, très récemment. Et effectivement, on quitte le domaine là, sans doute de l'hospitalisation sur conscience, mais il y a notamment une patiente qui a été interviewée dans cette émission et qui explique qu'elle a été en errance médicale parce qu'elle était épileptique et qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises aux urgences et dans différents hôpitaux publics à la fois en région parisienne puis lorsqu'elle a déménagé en Bretagne parce qu'on lui avait conseillé de réduire sa source de stress. En fait, elle avait été catégorisée et cataloguée comme hystérique. Et une fois qu'elle a eu son diagnostic par un interne, qui était là presque par hasard au jour où elle se rendait aux urgences, qu'en réalité, des médecins, et notamment des psychiatres, catégorisaient certaines patientes hystériques, parfois de façon informelle, et c'était la grande case pour tout, des maladies un peu inconnues, attachées aux stéréotypes de genre, en réalité. Donc en fait, si on lit cette...
Oui.
De 1819, et qu'on entend aujourd'hui des entretiens, je pense qu'il y a un fil à tirer et qu'on dit non.
Je pense que ce qui fait sourire, en fait, c'est que là, c'est quand même très... L'essentialisant, ça nous paraît être complètement exotique, mais pour rejoindre ce que vous disiez, c'est que on sait très bien aujourd'hui qu'en matière de santé, que ce soit physique ou mentale, il y a encore une invisibilisation de certaines considérations de genre. Enfin, je ne suis pas du tout médecin et donc je ne vais pas prendre cette place-là, mais on sait pertinemment que certains troubles sont mieux diagnostiqués chez les femmes parce qu'on ne fait pas les mêmes tests, parce qu'on ne fait pas les mêmes expériences, et puis qu'il y a une expérience de la douleur aussi qui n'est pas dite de la même façon selon les gens. Donc, je crois que ouais, c'est ça aussi qui fait qu'on peut avoir une différence. Et, il me semble que la question de la discrimination liée au genre est en train de faire doucement, que ça arrive quand même son chemin dans les études de médecine. Alors, c'est fragile, mais j'ai l'impression quand même que ça avance un petit peu. Mais ça relève de l'anecdote, mais une amie qui dispense ce genre de cours à des étudiantes et étudiants en médecine, c'est vraiment un volume horaire ridicule et on voit bien que ça demande en fait à être retravaillé. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. On va avancer un tout petit peu, puis peut-être passer à une autre forme de privation de liberté avec Karine, par exemple, sur la rétention administrative. Merci.
Tu peux rester là, je ne sais pas.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée d'arriver en retard, mais j'avais cours et j'ai pu profiter quand même, même si j'ai raté vos propos introductifs de la présentation de Catherine. Alors moi, je vais décider de ne pas dépasser. Et tu m'as donné combien de temps ? 15 minutes ? 20
minutes.
Voilà. Et je vais vous parler donc de la situation des femmes en rétention. Je ne vais pas dépasser, notamment parce que dans la salle... on a une femme médecin qui connaît bien mieux le sujet que moi, puisqu'elle a travaillé au centre de rétention administrative de Marseille. Je ne la connais pas personnellement, mais j'ai vu le documentaire qui s'appelle « Je ne sais pas où vous serez demain », je crois, où elle, son expérience au centre de rétention en tant que médecin a été brillamment filmée. Donc, les centres de rétention administrative sont des lieux d'accès assez difficiles. Moi, j'ai fait 2 demandes pour y entrer, mais qui ont été toutes les 2 refusées. Donc, j'ai jamais pénétré dans un centre de rétention administrative. Donc, dans cette mesure, voilà, je considère que mes propos vont être comme des propos introductifs et je vous laisserai préciser les choses. D'autant qu'il y a assez peu de données. Mais du coup, je vais quand même en profiter pour expliquer un peu ce que c'est que la rétention administrative et j'en viendrai quand même à la situation des femmes en prenant quelques données que j'ai réussi à récupérer. Et parce que c'est vrai aussi que ça pose quand même un problème. Parler de la situation des femmes en rétention administrative, il faut quand même dire ce que c'est que la rétention administrative, parce que dire que la situation des femmes en rétention administrative est terrible, sans dire que la situation de toute personne en rétention administrative est terrible, évidemment, est un petit peu compliqué pour celles et ceux qui considèrent qu'il faut mettre un terme à cet enfermement administratif. Alors la rétention administrative, donc, c'est une mesure d'enfermement, bien sûr, mais qui vise les personnes étrangères, pas parce qu'elles auraient commis un délit ou une infraction pénale ou un crime, mais uniquement parce qu'elles sont en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France. Merci beaucoup. Et c'est parce qu'elles n'ont pas de droit au séjour, parce qu'elles sont en situation irrégulière, justement, au regard de cette législation sur l'entrée et le séjour, qu'elles sont enfermées en vue de leur expulsion. Théoriquement, la rétention administrative n'est pas une mesure punitive, c'est une mesure administrative, un enfermement qui est censé servir à ce que, à l'État, pour garder la personne à disposition le temps de l'expulser. J'en dirai un mot en conclusion, mais en pratique, c'est notamment juste pour cette raison, par exemple, que les garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable ne s'appliquent pas à toute la procédure contentieuse autour de la rétention, parce que ce n'est pas censé être une mesure pénale. Voilà. Donc, c'est, on garde la personne sous le coude le temps de préparer son éloignement. Autre chose qui me semble importante à dire depuis à propos de cette mesure d'enfermement, c'est que on peut considérer qu'elle a 40 ans la rétention administrative, puisque en gros le décret qui la rend officiellement viable date de 1984. Bon, on peut discuter des dates, peu importe, mais ça a en gros dans la loi une 40aine d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme la plupart des mesures qui concerne les personnes étrangères, elle a commencé cette rétention administrative hors la loi. Hein, et donc, ça a commencé sur le port de Marseille, hein, à Arinc, là même où, pratiquement où il y a le centre de rétention administrative maintenant officiel. Et ça a commencé hors de tout cadre légal, donc c'était un enfermement administratif totalement arbitraire. Hein, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais jusqu'à ce qu'un scandale éclate et qu'il y a un livre qui sorte chez Mass Perrot qui s'appelait « La prison secrète de la police française ». Et parce que ça a fait scandale, parce qu'on en a trop beaucoup parlé, au bout d'un moment, et parce que la France avait ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, puis le protocole autorisant les personnes à saisir directement la Cour, l'État a été contraint de légaliser cette pratique administrative illégale. Et avec la légalisation, on pourrait se dire « Ah bon, bah ça va, on a introduit du juge, on a introduit donc des garanties juridictionnelles ». Mais en réalité, avec cette légalisation, on a eu une massification du recours à l'enfermement administratif, donc c'est un phénomène beaucoup plus important, sans pour autant avoir des garanties pour les personnes enfermées. Et donc ça, bon, c'est intéressant d'un point de vue plus large, parce que c'est comme ça aussi que se fait le droit des étrangers. Toujours, ils courent après les pratiques illégales de l'administration et de la police, ce qui, évidemment, fait un droit un peu particulier. Alors, juste sur la rétention, pour vous donner quelques chiffres, grosso modo, depuis une dizaine d'années, on compte à peu près 50 000 personnes enfermées en France, avec la moitié dans l'Hexagone et l'autre moitié dans l'Outre-mer et essentiellement à Mayotte. Alors, voilà, comme ça, 50 000 personnes. Alors, depuis le Covid, ça a un petit peu baissé, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Mais en gros, là, pour l'année 2023, parce qu'en fait, c'est documenté grâce aux associations qui ont le droit de rentrer dans les centres de rétention. Il y a eu un appel d'offres. Avant, c'était uniquement la CIMAD. Maintenant, il y a 4 ou 5 associations agréées. Chacune ayant un centre en particulier, et qui font un rapport annuel. Donc ça, c'est vraiment la source d'information la plus importante que vous retrouvez sur le site de la CIMAD, par exemple, donc, et qui a toujours un an de retard. Donc là, on est en 2025, et en avril, va sortir le rapport sur 2024. Donc là, moi, j'ai que les chiffres de 2023. Et en 2023, il y avait eu 17 000 personnes enfermées dans l'Hexagone, et 25 000 en Outre-mer, grosso modo, avec essentiellement sur ces 25 000, c'est l'essentiel à Mayotte, un petit peu en Guadeloupe et en Guyane. Et donc sur ces 17 000 personnes enfermées dans l'Hexagone, 5% sont des femmes. Voilà. Et avant de me replonger sur la situation des femmes, je voudrais quand même dire encore quelques généralités sur l'enfermement administratif et parler donc en gros des conditions matérielles de la détention, de la rétention, de l'enfermement. Donc c'est vraiment un univers carcéral, puisque les personnes vont vivre en permanence, manger, dormir, se soigner, sous la surveillance permanente de la police ou de la gendarmerie en fonction des lieux. Et c'est dans la partie réglementaire de ces EHPAD qu'on trouve quelques éléments sur l'organisation des centres. Il est dit une surface minimum de 10 mètres carrés par de retenue, mais qui n'est pas respectée évidemment. Des chambres collectives non mixtes, c'est la seule spécificité qui concerne les femmes dans le règlement, enfin dans le code, loi et règlement compris. Donc des chambres non mixtes et censées être librement accessibles. Donc à la différence des prisons, les centres de rétention administrative, les gens peuvent plus ou moins librement circuler entre les chambres. Il y a les chambres, il y a les zones de vie. Voilà, mais ils sont un tout petit peu moins enfermés que dans les prisons. Pour aller vite, je vous renvoie à un avis de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Vous connaissez cette autorité administrative indépendante, qui date de 2023 sur la rétention administrative. Et donc, les équipes de Dominique Simonneau ont visité un certain nombre de centres, plus d'une dizaine de centres, et le rapport considère que dans la grande majorité des cas, les conditions d'enfermement sont gravement attentatoires à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes retenues, femmes et hommes. Évidemment. Donc quelques exemples. Donc au sol sale et abîmé à Metz, murs maculés de graffitis et souillures de diverses natures et de matières fécales à Lyon, sanitaires sales et rongés par l'humidité. Il y a un portfolio associé au truc. Bon, ça prend beaucoup de temps de montrer les photos, mais voilà, les locaux sont extrêmement dégradés, insuffisamment entretenus, très peu d'heures de ménage. Donc ça, c'est évidemment effroyable quand on voit sur les photos. Les personnes en hiver ont souvent froid, même fenêtres fermées, parce que les chauffages sont sous-dimensionnés. Les chauffe-eau aussi sont sous-dimensionnés. Seuls les premiers qui se douchent souvent disposent d'eau chaude. Et l'organisation des lieux ne permet aucune intimité, c'est-à-dire que les portes des chambres ne ferment pas. Et les portes des sanitaires non plus. Alors les personnes retenues organisent des trucs avec les draps, ils essaient pour pouvoir fermer les toilettes pendant qu'ils vont aux toilettes, et pour pouvoir aussi éventuellement de temps en temps fermer leur chambre. Voilà, et pour terminer sur ces éléments d'ordre général, ce qu'on remarque aussi beaucoup et qui concerne donc indifféremment les hommes et les femmes, c'est une pratique de mise à l'écart, donc c'est-à-dire un peu comme le mitard en prison, c'est-à-dire de mise à l'isolement, qui n'est pas du tout encadrée par aucune règle. Donc ça c'est évidemment extrêmement problématique, c'est des mesures qui sont prises à visée disciplinaire, donc on voit par exemple telle personne est rentrée de l'hôpital, elle était très agitée, hop on l'a mis dans cette espèce d'endroit de mise à l'écart où il n'y a rien, parfois il n'y a pas de fenêtre, parfois c'est pas nettoyé, enfin, elle dit que les endroits c'était carrément ignoble. L'odeur était pestilentielle, il n'y avait pas de bouton d'appel, sauf si vous êtes enfermé, voilà, il n'y avait pas de point d'eau, etc. Moi, je vous passe les détails, c'est absolument effroyable. Et à Lyon, également, les contrôleurs ont constaté l'existence d'un kit psychiatrique de contention, donc qui est pour les étudiants et les étudiantes en droit social, enfin, droit de la santé. Donc c'est une camisole de force dont l'usage est encadré par la loi et évidemment qui n'est pas normalement utilisable dans un centre de rétention. Donc là, c'était pour vous donner un peu le cadre et savoir qu'à partir du moment où on est dans un univers où la police et où la gendarmerie a les mains libres, on entre quand même dans un univers de non-droit. J'en redirai un mot à la fin. C'est-à-dire que oui, vous avez le droit de demander à avoir un médecin. Oui, vous avez. Mais en fait, ce droit, à partir du moment où il peut être exercé à la discrétion de la police, eh ben, il n'est plus vraiment un droit.
Donc là, c'est le CRA de Lyon dont vous parlez, Madame Parot. Donc ça, c'est les chambres. C'est des photos du CGLPL. Le CGLPL est toujours accompagné d'un photographe. Et donc ça, vous pouvez retrouver tous les rapports et toutes les photos, illustrations. Donc, les sanitaires donc, qui sont effectivement rarement un lieu qu'on peut fermer. Là, c'est ce qu'on vous disait, donc c'est les systèmes de fermeture artisanaux qui sont fabriqués par les personnes retenues, les salles de détente.
Ouais, ça, c'est la cour de promenade, c'est pas mal, c'est sympa.
En tout cas, vous pouvez retrouver ça facilement sur cette manière.
Et donc, tout ça, c'est aggravé par la durée de la rétention administrative qui ne cesse de s'allonger. Au tout début, c'était quelques jours hein, quand ça a été légalisé, parce que l'idée étant de garder la personne sous la main le temps de l'expulser. On pouvait penser que 24-48 heures, ça suffirait. Depuis la légalisation de la mesure, cette durée n'a cessé de s'allonger. Elle est passée depuis quelques années à 90 jours. Donc, c'est 3 mois, c'est-à-dire une petite peine de prison. Évidemment, plus on allonge la durée et plus toutes ces conditions dont on vient de parler créent de la tension et de la violence entre les personnes et avec la police. Ça c'est sûr que c'est assez terrible. Puisque moi je milite au GISTI, au groupe d'information et de soutien des immigrés, et on avait des camarades logistiques qui intervenaient en centre de rétention pour la CIMADE, et il y avait une des personnes qui travaillait là-bas qui nous racontait, tiens, elle était revenue et elle avait entendu dans le centre la police qui appelait les personnes pour déjeuner, et elles avaient commencé leur intervention, parce que c'est ça, il y a des haut-parleurs, en permanence qui avec des injonctions. Et là c'était à la Wakbar les connards, à table. Voilà, donc c'est un peu pour vous dire le niveau d'humiliation et de voilà. Alors maintenant, quand même quelques mots sur les femmes en rétention. Alors mes seules sources, bon, j'ai lu quelques articles de journalistes qui avaient accompagné les députés, parce que les députés et les sénateurs font partie des gens qui peuvent rentrer dans les centres de rétention sans autorisation. Mais à part ça, c'est dans le rapport de la CIMADE. Alors donc c'est un peu séquencé par centre, puisque en fait dans chaque centre de rétention il y a une association qui au début du rapport, je vous invite à aller le regarder, il y a des données générales, et puis après il y a un petit résumé pour chacun des centres. Et voilà. Et donc les femmes en rétention, je vous ai dit que pour l'Hexagone, j'ai pas le chiffre global pour l'Hexagone plus Outre-mer, mais elle représente 5%. En 2020, elle représentait 9%. Alors je me suis posé la question pourquoi, et à tout vous dire, je pense que c'est parce que la population des personnes enfermées en rétention administrative a un tout petit peu changé depuis que le ministre de l'Intérieur, devenu le ministre de la Justice, tout va bien, a décidé qu'on allait donner la priorité aux sortants de prison. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des personnes qui, à la sortie de prison, à la levée d'écrou, étaient transférées en centre de rétention en vue de leur expulsion. C'est ce qu'on appelle, de manière impropre, la double peine. C'est-à-dire que tu fais ta peine de prison, puis après, on essaie de t'expulser. Mais comme on ne peut pas t'expulser si facilement, on te fait passer par le centre de rétention administrative. Et Darmanin a dit, oui, tous les méchants étrangers qui présentent un trouble pour leur public, on va vraiment les mettre en rétention en priorité. Donc maintenant, aujourd'hui, ils représentent près de 35%, que je ne vous dise pas, ou 25% à l'échelle de la France, et un peu plus pour le minima AMNO, par exemple, entre 25 et 35% des personnes. Et donc, il y a beaucoup moins de femmes, évidemment, qui sortent de... évidemment, il se trouve qu'il y a moins de femmes en prison aussi. Et donc, il y a... C'est une des explications. Et les autres explications, c'est aussi que... donc, il y a les sortants de prison, donc qui représentent aujourd'hui beaucoup plus de personnes. Il y a aussi... comment on arrive en centre de rétention? Donc, c'est à la sortie de prison. C'est quand, après avoir été interpellé à la suite d'une infraction. C'est-à-dire, tu commets une infraction, tu es contrôlé, tu es attrapé par la police en flagrant délit, et hop, on s'aperçoit que tu es en situation irrégulière, on te met en rétention. Ça représente aussi 15-20% des personnes qui se retrouvent en rétention. Donc, comme aussi les femmes sont moins représentées dans les autrices d'infractions, ça fait aussi un élément. Et puis, quand même, il y a les contrôles de police sur la voie publique, parce que la grosse majorité des gens qui finissent en centre de rétention font l'objet d'un contrôle sur la voie publique. C'est grosso modo plus de 30% des personnes... qui arrivent en centre de rétention le sont à la suite d'un contrôle d'identité, la plupart du temps un contrôle d'identité discriminatoire, mais quand même les hommes aussi sont plus ciblés, parce que d'abord ils sont plus dans l'espace public, et les femmes elles sont aussi avec des enfants, maintenant ils savent qu'on ne met pas les enfants en centre de rétention, puis les policiers, c'est plus facile pour eux de gérer un contrôle, d'emmener sans pitié un homme en rétention. Donc voilà pourquoi elles sont quand même moins représentées que les hommes, alors que dans les migrations il y a grosso modo autant de femmes que d'hommes à peu près, hein, sauf chez les mineurs, mais sinon il n'y a pas cette distorsion dans les personnes exilées entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas 95% des exilés qui seraient des hommes et 5% qui seraient des femmes. Donc ça ne reflète pas la population étrangère, même la population étrangère en situation irrégulière. Voilà. Mais donc ces 5% ne sont pas non plus complètement... ils ne disent pas non plus grand-chose dans la mesure où j'ai vu beaucoup de disparités en fonction des centres. Par exemple... à Toulouse, où 1500 personnes ont été enfermées en 2023, j'arrondis, hein, c'est 1479, mais bon, voilà, 1500 personnes, 6% étaient des femmes à Toulouse. Alors qu'au Ménilamlo, 1900 personnes enfermées en 2023 et 23% étaient des femmes. Bon, là, je ne sais pas comment expliquer une telle disparité. Bon, c'est peut-être aussi que... Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, il faudrait y réfléchir. Bon. Alors... pour terminer, vraiment ce que j'ai trouvé dans le rapport de spécifique aux femmes. C'est-à-dire que les chambres ne sont pas mixtes, on l'a vu. Ce qui manque vraiment beaucoup, c'est aucun endroit ne garantit l'intimité des femmes. La zone, par exemple, en Guadeloupe, la zone prévue pour les femmes ne garantit aucune intimité. Les chambres dont les portes sont constituées d'une vitre semi-transparente se trouve face au poste de surveillance et à la vue des différents acteurs du CRA. Donc la chambre pour les femmes, elle est quasiment en face du poste de garde de la police, d'après ce qu'on comprend. La salle de bain n'est dotée d'aucune porte. Voilà. Et donc, évidemment, dans un milieu d'hommes, pour les femmes, c'est un peu plus gênant, bien que ce soit gênant pour tout le monde, je tiens quand même à le rappeler. Et donc, comme il y a moins de personnel, l'accès à la cour extérieure n'est accessible que sur demande et conditionné à la disponibilité des policiers. Ça, c'est aussi un élément... qui me semble important. Par exemple, à Rouen, ça c'est concernant juste les endroits, à Rouen, il y a la problématique de l'espace commun, femmes seules et couples. Comme ils n'ont pas assez de place, ils mettent ensemble les femmes seules, qui sont parfois victimes de proxénétisme, dans le même espace que les familles, c'est-à-dire les hommes en couple avec des femmes. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, par exemple. Alors autre chose, c'est les femmes enceintes, puisque moi j'ai dit que je n'allais pas dépasser, je vais essayer de m'y tenir. Les femmes enceintes sont enfermées en centre de rétention administrative. Par exemple, au CRA de Metz, en 2023, 13 femmes enceintes ont été enfermées. Plusieurs d'entre elles étaient à un stade avancé de leur grossesse, hein, évidemment. Une femme enceinte de 6 mois a été placée en rétention en juillet 2023 sur le fondement d'un arrêté de transfert vers le Portugal au titre du règlement Dublin. Donc là, c'était... c'est-à-dire que cette femme était une demandeuse d'asile, mais sous prétexte que le Portugal était l'État compétent pour examiner sa demande d'asile, on l'a enfermée en rétention en vue de la transférer vers le Portugal. Donc déjà le truc complètement délirant, sachant que d'après le système européen, le Portugal est censé examiner sa demande d'asile selon le même critère que la France, mais c'est pas grave. On va quand même la mettre en centre de rétention administrative pour l'expulser vers le Portugal. Elle a été présentée à un juge de la liberté de la détention qui a reconduit l'enfermement administratif, considérant qu'il ne l'a pas libérée, hein, que le seul fait qu'elle soit enceinte de plus de 6 mois n'est pas une situation en elle-même de vulnérabilité, à défaut d'autres éléments. Voilà. Bon, il y a d'autres femmes qui ont fait il y a des femmes qui ont fait des fausses couches parce qu'elles arrivaient au centre de rétention administrative. Il y a des femmes qui ont été, ça aussi c'est une autre problématique importante, c'est des femmes qui sont séparées de leurs enfants. C'est-à-dire que depuis, il y a toujours eu des femmes mises en centre de rétention et séparées de leurs enfants de fait, donc qui restaient à l'extérieur et dont on ne savait pas toujours trop comment ces enfants étaient pris en charge. Mais depuis la loi Darmanin de 2024, la seule bonne chose dans cette loi, il faut vraiment chercher parce que c'est la seule, c'est que les enfants ne peuvent plus accompagner leurs parents en centre de rétention administrative. Donc maintenant, il n'y a plus d'enfants qui accompagnent les parents en centre de rétention administrative, mais Darmanin, dans une circulaire, a dit que... on pouvait les séparer si jamais il y avait un risque de fuite des parents, donc mettre les parents en centre de rétention administrative et les enfants dehors, ce qui peut causer tout un tas d'horreurs. Même une mère qui a été séparée d'un enfant très très jeune, d'un nourrisson, on appelle un nourrisson, et je ne sais pas si vous imaginez le traumatisme que ça peut produire chez la mère et chez l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant étant censé être un élément particulièrement déterminant en principe dans toutes les décisions qui le concernent. Alors je vais terminer avec l'enfermement des femmes victimes de violences, parce que ça, c'est quelque chose quand même d'assez, d'assez important, c'est-à-dire qu'on voit, et ça s'accentue, hein, au Minimum Law notamment, c'est-à-dire on voit des femmes étrangères en situation irrégulière qui vont porter plainte au commissariat et qui se retrouvent enfermées en centre de rétention administrative. La CIMAD considère que, depuis janvier 2023, donc ça fait à peu près 2 ans, 17 femmes qui sont allées porter plainte dans un commissariat pour violence conjugale ou violence tout court, ont été placées en centre de rétention administrative. Et donc pas, leur plainte n'a pas pu évidemment prospérer et elles se sont retrouvées enfermées. Alors même qu'en principe, ça devrait être un droit de déposer plainte. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous savez que tout ça c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, même quand on n'est pas en situation irrégulière. Alors quand on est en situation irrégulière, évidemment, c'est pire. À Toulouse aussi, c'est une pratique tout à fait répandue, hein, ce qu'on peut considérer être des interpellations déloyales, hein, de femmes victimes de violences. C'est un peu comme quand vous allez à la préfecture, vous êtes convoqué, si vous êtes interpellé à ce moment-là, suite à une convocation qui ne prévoit pas expressément que vous allez être enfermé, on considère que c'est une interpellation déloyale. Enfin, la Cour de cassation considère encore que c'est une interprétation déloyale. Ça devrait être le cas aussi quand on va déposer plainte pour victime, pour violence conjugale. Voilà. Alors, juste pour terminer, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire. Il y a aussi des femmes iraniennes qui ont été enfermées. Par exemple, il y a 5 personnes iraniennes, donc 4 femmes très jeunes qui ont été placées en rétention à Toulouse, hein, alors que en principe, elles ne devraient pas pouvoir être expulsées envoyées vers leur pays, puisqu'elles ont été des militantes, elles ont été photographiées dans toutes les manifestations Femmes, Vie et Liberté. Et quand on connaît un peu les services secrets iraniens, ce serait une folie de les renvoyer chez elles. Donc pourquoi les enfermer en rétention, alors même que publiquement on affirme en permanence ce soutien à la cause des femmes et compagnie. Voilà. Donc, ces centres de rétention administrative, c'est vraiment des zones de non-droit. La CIMAD et les autres associations relèvent que les cas d'expulsion illégale augmentent. C'est-à-dire que, vous savez, vous êtes enfermé en centre de rétention administrative, il y a quand même des procédures qui sont possibles. Il est possible de saisir le juge administratif, notamment, et cette saisine a un effet suspensif, mais de plus en plus, on voit que les préfets ne respectent pas la loi et expulsent en violation du droit français, en violation même parfois des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, des mesures provisoires qui interdisent à la France d'expulser une personne. Et là, c'est peut-être ce qui caractérise aussi la période actuelle, c'est que l'administration se sent de plus en plus décomplexée par rapport au droit. Hein. Non seulement elle ne respecte pas les règles, mais elle ne respecte pas toujours les décisions de justice. Et quand le ministre de l'Intérieur de l'époque affirme à la télé qu'on s'en fout des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et des décisions du Conseil d'État, évidemment, on voit bien que on a un contexte très particulier. Et dans ce contexte-là, qui touche près de ça, beaucoup de personnes, les femmes évidemment sont toujours plus vulnérables que les autres. Mais il faut elles représentent 5% de cette population, mais peut-être que ça pourrait servir à montrer à quel point ces centres sont une aberration, puisqu'ils n'arrivent même pas à remplir leur objectif officiel. J'ai pas le temps d'en parler, mais leur objectif officiel, c'est un peu une sorte de prétexte. Voilà, merci beaucoup.
Merci Karine. Je propose qu'on écoute Rime Mansour et qu'on fasse une sorte de question commune, parce que je pense que les deux interventions vont bien se compléter. Mais restez-là quand même.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, on a fait connaissance à travers LinkedIn et du coup, Maïté m'a proposé de venir intervenir. Donc, en effet, j'ai été médecin généraliste en fait au centre de rétention de Marseille entre 2012 et 2020. Et parallèlement, j'étais aussi médecin généraliste à la prison des Baumettes entre 2010 et 2020. Et depuis, j'ai rejoint le comité international de la Croix-Rouge. Et en fait, je rentre il y a deux jours de l'Irak où j'ai passé 3 ans. Donc bon, voilà, je me remets un peu dans le bain, on va dire, français. Donc j'ai relu refait quelques lectures pour me mettre un petit peu à jour peut-être de certaines choses concernant les centres de rétention. Donc je vais essayer de parler un petit peu. J'ai quelques diapos au début qui vont reprendre certains éléments de Madame Parot, mais on va passer assez vite dessus. Je vais parler un petit peu de mon expérience donc dans le centre de rétention de Marseille, en sachant que probablement, même si j'ai arrêté il y a 4 ans, il y a beaucoup de choses qui restent les mêmes. Peut-être concernant l'organisation des soins à l'intérieur du centre, peut-être qu'il y a eu certaines modifications, mais en tout cas, en gros, on va dire, je pense qu'il n'y a pas eu de grands changements. Bon, là, j'ai peut-être ce petit schéma qui reprend très rapidement l'évolution de la durée de la rétention. Et en fait, moi, comme j'avais commencé en 2012, la durée de la rétention était de 45 jours, et puis en 2019, elle est passée à 90 jours. Et ce qu'ont démontré les associations, c'est que même si on prolonge le temps de la rétention, ça ne veut pas dire que l'administration va réussir plus à expulser la personne dans son pays d'origine. Alors là, par contre, plus particulièrement en ce qui concerne la prise en charge sanitaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une circulaire qui datait de décembre 1999 et qui essayait de déterminer comment doit s'organiser l'accès aux soins dans un centre de rétention. Mais c'était une circulaire qui était très brève, qui ne donnait pas beaucoup de détails. Et au final, chaque UMCRA, donc chaque unité médicale du centre de rétention administrative, faisait un peu ce qu'elle voulait. Donc je vous dirai au fur et à mesure ce que j'avais pu, on va dire, mettre en place à Marseille. Mais en tout cas, on avait un peu... Voilà, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait en ce qui concerne l'accès des retenus à l'hôpital, aux consultations externes, aux consultations éventuelles qu'on avait pu implanter au sein de l'unité médicale. Et puis, au fur et à mesure, et en fait, j'avais fait partie du groupe de travail entre le ministère de la Santé et la Direction générale des étrangers en France pour modifier cette circulaire. Et finalement, ça a abouti à un arrêté et puis finalement à une instruction interministérielle qui date de février 2022 et qui en fait, bon là je l'ai imprimée et elle c'est sous forme de fiche sur comment doit se passer la consultation, l'interprétariat, si la personne ne peut pas s'exprimer en français ou ne comprend pas le français, les hospitalisations, le secret médical, l'organisation des locaux, qui on doit avoir comme personnel médical au sein de cette unité médicale. Donc, en effet, moi aussi, j'ai repris le rapport là, 2023, et puis on voit que les sortants de prison constituent 26,6%. Et en effet, moi, j'avais commencé en 2012, les sortants de prison constituaient peut-être 5% des retenus. Et puis ensuite, 2019-2020, on atteignait le quart de la population du centre de rétention. Et je crois que c'était lié à une circulaire du ministère de l'Intérieur, peut-être en 2019, qui disait que, quelles que soient les raisons de la présence en prison d'un étranger sans titre de séjour, eh bien, le jour de sa sortie de prison, il se retrouvait au centre de rétention en vue de son expulsion. Et comme je travaillais en même temps à la prison et au centre de rétention, très souvent, je voyais mes patients de la prison qui se retrouvaient au centre de rétention et qui étaient complètement surpris parce que le jour de la libération de la prison, ils pensaient sortir et en fait, la voiture de la police aux frontières était devant la prison et les emmenait au centre de rétention. Voilà, ça c'est l'évolution des sortants de prison au cours des années. Donc on voit que là, dernièrement, ils sont en effet le quart de la population. En effet, en 2023, les femmes, si maintenant on arrive plus particulièrement aux femmes, elles constituent 50% des retenues. Et j'ai envie de dire qu'en effet, là, moi je vais parler des femmes. Il y a surtout la question de l'exil. D'accord. Et puis, il y a aussi la question qu'il y a beaucoup de choses en commun, comme a dit Madame Parot, avec les hommes. Donc, toutes les conditions, tout ce qui va se passer en centre de rétention est quand même assez commun aux hommes et aux femmes. Mais on va voir qu'il y a peut-être quelques facteurs de vulnérabilité supplémentaires pour les femmes lorsqu'elles se trouvent au centre de rétention. Donc, on va reprendre la vulnérabilité de base, de toute personne. Ben, ok, elles sortent de prison, normalement leur peine est terminée, mais elles vont se retrouver de nouveau enfermées. On sait que parmi les femmes, particulièrement en prison, mais aussi en centre de rétention, la problématique des addictions est quelque chose d'assez commun. Ensuite, lorsqu'on parle aussi de l'arrivée de cette personne exilée au centre de rétention, de manière générale, leur état de santé est assez précaire, parce qu'à l'extérieur, si elle n'avait pas de titre de séjour, c'est qu'elle relevait de l'aide médicale de l'État, et en général, elles font face à beaucoup d'obstacles pour pouvoir obtenir l'aide médicale. Donc beaucoup de ces personnes, quand elles arrivent en centre de rétention, n'avaient peut-être même pas d'accès aux soins à l'extérieur, n'avaient peut-être pas eu l'occasion de se faire faire un bilan de santé et de connaître un petit peu leur état de santé général depuis leur arrivée en France. Bien évidemment, il y a la barrière de la langue, hein, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, de décrire ses symptômes, de comprendre les messages, ça c'est un obstacle. Et du coup, à la prison des Baumettes, mais aussi au centre de rétention administrative, en fait, on faisait appel à ISM, Inter-Service Migrant, donc c'est un service d'interprétariat au téléphone, qui coûte bien sûr de l'argent, à l'époque c'était 20 € le quart d'heure, mais au moins, on pouvait faire une consultation, enfin moi je mettais le haut-parleur sur le téléphone, on avait accès à un interprète et on pouvait faire la consultation avec la présence de l'interprète au téléphone pour pouvoir faire un petit peu le point sur la santé. Bien sûr une grande précarité sociale parce que si les personnes à l'extérieur n'ont pas de titre de séjour, ça veut dire qu'elles ont des difficultés pour trouver du travail, pour se loger et donc il y a une accumulation de facteurs de vulnérabilité là encore. Quelque chose aussi d'assez important, avant les Baumettes et le centre de rétention, j'avais travaillé au COMED, qui est le Comité pour la santé des exilés, et en fait on se rend compte que quand même il y a certaines pathologies qu'on retrouve dans la population générale, mais qui sont plus fréquentes parfois selon le continent ou le pays d'origine. Par exemple, on sait que la prévalence de l'hépatite B quand on vient d'Afrique de l'Ouest est plus importante, plus élevée que quand on vient d'un autre continent ou d'une autre région. Donc voilà, c'est important de le garder en tête et de se dire que si on veut faire un bilan de santé pour une personne, eh bien, il y a certaines pathologies qui seront peut-être plus prévalentes chez certaines nationalités. Alors là, je fais un focus sur la santé mentale et encore une fois, là, c'est quelque chose de tout à fait commun aux hommes et aux femmes, quelque chose qu'ils partagent, c'est que bien sûr, le fait d'être enfermé, c'est une source de stress, hein, de se retrouver entre quatre murs, de ne pas savoir, notamment pour les personnes retenues, quel va être leur devenir, est-ce qu'elles vont être expulsées, pas expulsées. Donc ça, c'est une première source de stress. Ensuite, ben, voilà, le fait d'avoir cette perspective de l'expulsion va aussi être une source supplémentaire de stress. Et à ce sujet, quand j'ai commencé à exercer au centre de rétention, on parlait tout à l'heure de crise d'épilepsie, j'ai été appelée en urgence dans une chambre en centre de rétention pour une crise d'épilepsie. Et finalement, dans nos critères médicaux, il ne s'agissait pas du tout d'une crise d'épilepsie, mais une crise d'angoisse aiguë. Et ça, c'est la première fois que je voyais comment le corps humain peut exprimer son angoisse à travers des tremblements généralisés et d'être allongé au sol. Et donc, on peut poser un diagnostic et ensuite se rendre compte que finalement, c'est les conditions d'enfermement, le stress qui a entraîné cette manifestation physique. Après, bien évidemment, certaines personnes ont peut-être une pathologie sous-jacente psychiatrique et le fait d'être enfermé, eh bien ça va décompenser un certain état. Alors bon, l'exil aussi à prendre en compte, hein, parce qu'en général, si les personnes ont décidé de quitter leur pays, ce n'est pas par un choix. En général, ça a été soit parce qu'il y a eu un conflit, ou bien il y a de multitudes de raisons. Et en fait, ben, tout le parcours d'exil, comme on l'appelle, que ce soit dans le pays d'origine, à travers le parcours et une fois arrivé en France, étant donné les conditions d'accueil, tout ça aussi, ça va agir sur la santé mentale de la personne exilée. Et puis, souvent aussi, on a vu au centre de rétention que la personne était arrêtée parce qu'elle avait eu un comportement peut-être lié à une pathologie psychiatrique. Je me rappelle d'un homme, là, qui avait sorti une arme factice devant le centre de rétention de Marseille. Et puis, là, la police aux frontières lui a sauté dessus. Il se trouve qu'il n'avait pas de titre de séjour. Il s'est retrouvé au centre de rétention. Bon, là, j'ai vraiment mis quatre idées très générales, mais pour essayer peut-être de donner quelques exemples sur les femmes en rétention. Vous parliez tout à l'heure de femmes qui peuvent être enceintes. Alors, en effet, Je fais juste une petite parenthèse. Donc, sur cette circulaire interministérielle de l'accès aux soins, pour l'accès aux soins en centre de rétention, la seule notion, on va dire, qui peut-être est en lien avec les femmes, c'est qu'on dit que dans certains centres de rétention, selon la population ou le profil des personnes, normalement, on a un médecin, on a un infirmier, on pourrait avoir un psychologue, selon la circulaire, et dans certains endroits, on pourrait avoir des sages-femmes. Donc, il est juste fait mention de sages-femmes, pas de gynécologue ou pas de plus de détails. Et donc, au final, ça va vraiment retomber sur le service public hospitalier de la ville qui va décider quel genre de soins il va proposer aux personnes qui sont retenues. Et donc, en effet, je me rappelle d'une femme qui était d'Europe de l'Est, qui est arrivée enceinte. Elle était dans ses premières semaines et probablement les conditions d'enfermement ont fait qu'elle a fait une fausse couche pendant l'enfermement. En ce qui concerne la précarité menstruelle, bien, il y avait beaucoup de femmes au centre de rétention de Marseille qui disaient que quand elles arrivaient au centre, les policiers leur fournissaient un petit kit, mais que, entre autres, dans le kit, il y avait quelques serviettes hygiéniques, mais ensuite, elles avaient honte de redemander des serviettes hygiéniques à la police aux frontières. Et si elles n'avaient pas de visite de la part de famille ou d'amis, eh bien, elles pouvaient se retrouver à court de serviettes hygiéniques. Alors, pour les grossesses ou pour les soins gynécologiques, en fait, moi, je me permettais de prendre des rendez-vous à l'hôpital, puisqu'on dépendait du service public hospitalier. Donc, je pouvais très bien appeler le service de gynécologie de l'hôpital de la Timone à Marseille et demander une consultation. Donc, la consultation pouvait avoir lieu dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent. Après, je n'étais pas sûre si la personne serait encore là, puisque c'est là, on va le voir tout à l'heure, toute la complication de soigner en rétention, c'est que, heureusement, la personne peut être libérée du jour au lendemain. Malheureusement, elle peut être expulsée du jour au lendemain. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour cette personne si on n'est même pas sûr de pouvoir la revoir dans 2 jours? Mais en tout cas, comme l'accès à l'hôpital était possible, eh bien, je ne me donnais pas de limite pour les orienter pour des consultations spécialisées. Il y avait des infirmières, on pouvait faire des prises de sang et envoyer les tubes à l'hôpital. L'accès aux traitements médicamenteux était tout à fait possible pour pouvoir assurer la continuité des soins pour les personnes retenues. Et alors, d'où la consultation médicale systématique, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que donc, chaque nouvelle personne qui arrive au centre de rétention, donc là, le chef du CRA, communiquait une liste des personnes qui venaient d'arriver au centre de rétention, et en fait, les infirmières faisaient automatiquement une consultation infirmière pour faire un petit peu une consultation de débrouillage, pour voir s'il y avait besoin d'une consultation avec le médecin ou bien non. Et ce qu'on avait mis en place, c'est que s'il s'agissait d'une femme, on organise une consultation médicale avec le médecin, qu'il y ait une raison médicale ou pas, mais au moins ça permettait à nous, médecins, parce que nous étions 3 ou 4 à consulter sur la semaine, de faire le point avec les femmes et de voir s'il y avait quelque chose de particulier pour lequel il fallait s'occuper. Donc oui, voilà, donc moi j'arrive au centre de rétention et je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Donc soit j'ai la personne en face de moi en consultation qui se plaint de la cheville et puis je vais m'occuper de sa cheville, mais aussi on peut se dire, ces personnes n'ont peut-être jamais eu accès aux soins à l'extérieur. Alors est-ce que le centre de rétention c'est un lieu de soins? Pas nécessairement. Est-ce que je me lance dans des bilans de santé? En sachant que si, quand j'aurai récupéré les résultats des examens 2 jours plus tard, je ne vais peut-être pas pouvoir voir la personne et lui remettre les résultats des examens. Si je propose à une personne une sérologie VIH et que finalement la personne est séropositive pour le VIH, mais dans 3 jours va être expulsée dans un pays où elle n'aura peut-être même pas accès au traitement, est-ce que je fais bien de proposer un bilan de santé? Donc ça, c'est toutes les questions qui me sont venues à l'esprit au début de l'exercice. En tout cas, ce qui était important, c'est que quand on voyait une personne pour la première fois, eh bien, c'était d'assurer la continuité des soins. Donc si la personne avait éventuellement un médecin traitant à l'extérieur, eh bien, c'était d'appeler le médecin et d'essayer de savoir s'il y avait des problèmes de santé, s'il y avait un médicament particulier qu'on pourrait continuer pendant la présence. Et souvent, on se rendait compte en fait qu'on était le premier recours aux soins depuis l'arrivée en France. Donc voilà, il fallait essayer de jongler avec ça. Alors là, j'ai mis exemple des Tunisiens, population vulnérable, parce que quand j'avais commencé en 2012, c'était la révolution en Tunisie, et du coup, il y avait beaucoup de jeunes Tunisiens qui arrivaient, qui étaient un petit peu dans l'errance. Il y avait pas mal de problématiques d'addiction, donc voilà, il fallait un petit peu essayer de voir comment on pouvait s'en occuper, en sachant que c'était pas le lieu pour traiter une addiction, et que j'allais pas dire à la personne, ah ben non, je ne vous prescris pas de benzodiazépines, il fallait bien que je continue un minimum, tout en essayant bien sûr de modérer les prescriptions. Bon, donc c'est l'occasion de faire un examen clinique, de prendre l'attention de la personne, de vérifier si elle a une hypertension ou pas, et d'examiner le corps, de vérifier s'il n'y a pas eu de violence subie, parce qu'on sait qu'au moment de l'arrestation ou du contrôle des papiers par la police aux frontières, il peut y avoir enfin des violences. Donc aussi, il fallait pas hésiter, en tout cas pour nous médecins, de faire un certificat médical qui constate éventuellement des coups et blessures et que la personne pouvait ensuite remettre à l'association d'accompagnement juridique dans le centre de rétention pour faire valoir ses droits. Et puis, le plus important, c'est que je pense que vous savez qu'il y a une loi en France qui permet d'obtenir un titre de séjour lorsqu'on a un doute sur la possibilité d'accès aux soins dans le pays d'origine. Et donc, notre rôle aussi, c'était de rester vigilant par rapport à ça et de voir si on pouvait saisir le médecin. Qui, à mon arrivée en 2012, ce médecin, c'était le médecin de l'Agence régionale de santé. Donc, c'était un médecin dont la tutelle était le ministère de la Santé. Donc, il avait une certaine indépendance. Et puis ensuite, je ne sais plus, c'était en 2019, je ne sais plus quand, la loi a changé. Et finalement, ce n'est plus...
2016.
Ouais, ou peut-être 2016. Ce n'est plus le médecin qui dépend du ministère de la Santé qui décide, mais c'est un médecin qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et donc là, ça vous montre qu'il n'a plus d'indépendance et que c'est lui qui devait statuer selon le certificat médical qu'on lui envoie pour dire oui, cette personne a un risque de ne pas pouvoir avoir accès aux soins dans son pays si elle est expulsée, ou bien non, il n'y a pas de risque qu'elle n'ait pas d'accès aux soins. Je pense juste à quelques exemples de femmes qui m'avaient particulièrement touchée, en sachant qu'à partir de 2018-2019, il n'y avait plus de femmes au centre de rétention de Marseille, et qu'elles étaient, en fait, elles se trouvaient au centre de rétention de Nice, notamment une femme sénégalaise qui s'était retrouvée sans titre de séjour sur Marseille, donc qui arrive au centre de rétention et qui refuse, le jour où elle est amenée à l'aéroport pour son expulsion, elle refuse de prendre l'avion. Et en fait, quand on va à l'encontre d'une décision de l'administration, elle a été amenée à la prison des Baumettes. Et donc moi, j'interviens à la prison des Baumettes, et je la retrouve à la prison des Baumettes, où je la soigne. Et ensuite, donc elle a été condamnée, je pense que c'était 3 mois de prison, parce qu'elle avait été à l'encontre de la décision d'administration. Et le jour où elle est libérée de la prison des Baumettes, elle pense qu'elle est libre. Eh bien non, elle est ramenée au centre de rétention. Et donc là, quand je la vois, elle me dit « Je ne vais surtout pas refuser de prendre l'avion, parce que je ne veux absolument pas me retrouver dans l'avion pour une femme qui n'avait jamais eu une expérience d'enfermement et qui était venue en fait en Europe parce qu'elle voulait vendre des produits sénégalais qu'elle avait amenés du Sénégal, et c'était la première fois qu'elle avait eu l'occasion de sortir du Sénégal. Ensuite, un exemple par rapport à la mise à l'écart, une femme marocaine qui avait refusé de prendre l'avion, enfin qui avait refusé une première fois de prendre l'avion, qui ne s'était pas retrouvée en prison, et une semaine plus tard, de nouveau, les policiers se présentent, et comme ils savaient qu'elle risquait de ne pas vouloir prendre l'avion, ils la mettent à l'écart, donc en cellule d'isolement, pendant toute la nuit, avant le départ le lendemain. Et en fait, les cellules d'isolement dans le centre de rétention de Marseille sont des cellules où il y a une lumière 24 heures sur 24, où la personne est filmée 24 heures sur 24, et où les toilettes, les doubles WC sont juste à côté du lit, donc on voit la personne qui fait ses besoins et quand elle s'allonge. Et ce qui s'est passé pendant toute la nuit, c'est qu'elle a commencé à se taper la tête contre les murs, et le film que l'association Forum Réfugiés avait réussi à voir montre que les policiers sont rentrés à plusieurs reprises dans la cellule pour lui mettre un casque pour éviter qu'elle se fasse du mal, qu'elle ait un traumatisme crânien. Et ensuite, à un moment, elle se tient le ventre. Et au final, cette personne s'est retrouvée aux urgences. Et en fait, elle avait avalé beaucoup de paracétamol, de doliprane. Et elle a fait une hépatite fulminante, c'est-à-dire que la quantité de doliprane qu'elle a prise a détruit son foie. Et heureusement, elle était hospitalisée en réanimation et elle a pu avoir une greffe de foie. Mais c'est juste pour vous dire à quel point les personnes peuvent être complètement... ne sont bien sûr pas prêtes à accepter ce qui les attend. Et parfois, on refait leur vie ici, même sans titre de séjour. Et comme quoi, elles peuvent faire... Il y a une atteinte à leur intégrité physique par elles-mêmes en raison de la grande souffrance. Alors oui, les chiffres de 2023 là, des cinq associations montrent qu'en fait 60% des personnes ont été libérées au final. Donc si la personne est libérée du centre de rétention, elle va se retrouver dans la même situation. Hein. C'est pas parce qu'elle est libérée qu'elle va avoir un titre de séjour. Donc parfois, on pouvait retrouver la même personne plusieurs fois, arrêtée de nouveau sur la voie publique et de nouveau qui se retrouve au centre de rétention. Donc si 60% de ces personnes sont libérées, ça veut dire qu'il faut peut-être... On peut peut-être essayer d'en faire quelque chose. Et par là, ce que je veux dire, c'est que quand on ne maîtrise pas le jour de la sortie, peut-être qu'en tant que médecin, on peut, si on a fait des examens complémentaires, si on sait que la personne, la femme par exemple, a subi des violences sexuelles, quelles sont les associations ou les structures d'aide ou de soins spécialisés vers lesquelles on peut les orienter à l'extérieur, en sachant qu'on n'est jamais informé de la sortie de la personne. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut qu'on essaye d'appréhender à l'avance, mais qui n'était pas du tout évident. Voilà. Et en fait, je pense que si j'ai quitté au bout de 8 ans, c'est à cause d'une situation, on va dire, politique... volontaire, qui fait que les conditions se sont aggravées avec les années, et c'était aussi du fait qu'en tant que médecin, je n'avais plus du tout de paroles ou de mots pour pouvoir encourager la personne et lui dire « Non, ne vous en faites pas, tout va bien se passer. » Merci.
Je vais laisser la parole à la salle pour ces deux interventions sur la rétention administrative. Donc, pour Madame Parot et Madame Mansour, est-ce que vous avez des questions? Kim, Marion, Clara, Cyril.
Moi, je pense que vous êtes mieux passé que moi pour répondre, parce que vous connaissez vraiment la situation. Après, le manque de formation de la police, c'est une vaste question, qui ne concerne pas uniquement les centres de rétention administrative. Après, se pose la question de savoir, est-ce que si on formait mieux la police, ce qui serait forcément pas très difficile et une bonne chose, est-ce que ce serait quand même, on vivrait quand même dans un état formidable de droit et compagnie, ça serait encore une autre question.
Non, moi, j'ai envie de dire que ça dépendait des policiers. C'est-à-dire qu'il y en avait qui respectaient la personne retenue. Et puis, c'était clair que pour d'autres, il y avait un manque de respect. Moi, je me rappelle, on avait des réunions des partenaires du centre de rétention. Il y avait la police, le service médical, le service restauration. Et j'avais l'impression qu'on parlait d'un troupeau de personnes. Donc là, il ne s'agit même pas de formation, il s'agit aussi de respect. Parce qu'il y avait aussi de la violence de la part des policiers, hein, malheureusement. Ou alors des mises à l'écart, une fois, dans la cellule d'isolement, où il n'y avait pas de matelas sur le lit. Donc quand j'ai vu le patient le lendemain, il avait les traces du sommier sur le dos. Donc là, je veux dire, il n'y a pas besoin de formation pour certaines choses. Hein. Ouais.
Ah, pardon.
Alors malheureusement non, mais il se trouve par exemple quand j'étais à Marseille que j'avais un collègue de la prison des Baumettes qui lui était aussi addictologue, donc il faisait des consultations, donc il avait une notion, moi-même j'en avais aussi des notions puisque j'avais travaillé à la prison et qu'on se forme sur le tas malgré nous, donc bien sûr on s'en servait, et puis notamment pour les demandes de titre de séjour pour raison de santé, on était convaincu que quelqu'un qui par exemple avait consommé de l'héroïne et qui était sous traitement de substitution, par exemple par de la méthadone ou de la buprénorphine, le Subutex, et bien dans certains pays, on sait qu'il n'y a pas accès à ce traitement et que si la personne arrive dans son pays, va être dans un grand état de manque. Donc on n'hésitait pas à saisir le médecin de l'OFI pour des cas de traitement de substitution orale pour des gens qui souffraient d'addiction. En effet, je pense que c'est un mélange de choses. En général, ils ne nous informaient pas. Enfin, les responsables du centre de rétention, je pense, parce qu'ils avaient peur que nous, peut-être, nous parlions de la décision pour le lendemain ou pour la nuit et que la personne, peut-être, se prépare. Ça peut être une raison. Et puis, parfois, le fait d'être présenté devant un juge, le juge pouvait, sur le coup, décider de la libération de la personne. La personne, parfois, revenait au centre. Si c'était l'après-midi, le médecin n'était peut-être pas là. Et la personne, heureusement, était libre. Et en effet, on n'était pas au courant. Ensuite, ce qui arrivait souvent aussi, c'était des personnes qui étaient donc dublinées. Et notamment, il y avait... Ça aussi, ça me fatiguait à la fin, mais je vais vous donner un exemple de personnes, par exemple, du Nigeria, qui avait traversé la Méditerranée, qui était arrivée en Italie, qui s'était dit « je ne demande pas l'asile en Italie, je passe en France », qui se rend à la préfecture, qui dit « je vais demander l'asile en France », à la préfecture, on prend son empreinte digitale, « tiens, vous êtes passé par l'Italie, donc c'est là-bas que vous devez demander l'asile, mais on va interroger l'Italie ». Donc la personne vient à un rendez-vous à la préfecture toutes les 15 jours, entre-temps a un accès aux soins, découvre qu'elle est séropositive pour le VIH, a un médecin traitant, commence à apprendre le français, et puis au bout de 6 mois, arrive à la préfecture pour son rendez-vous, on vous menotte, vous êtes expulsé en Italie. Et donc la personne se retrouve au centre de rétention le soir pour repartir le lendemain matin. Et c'est uniquement un lieu de transition avant l'expulsion. Donc parfois c'est le lendemain matin, donc on n'a même pas eu le temps de voir la personne. Parfois c'est au bout de 2 jours et on ne peut rien faire à part contacter le médecin hospitalier et donner les traitements. Parce que comme l'Italie est un pays européen, je ne pouvais pas saisir le médecin de l'OFI pour dire il y a un risque qu'il soit expulsé au Nigeria, c'est l'Italie. Et donc le médecin de l'OFI répondait « Ah, mais c'est l'Italie, il a accès aux soins. » D'accord, mais si on est séropositif pour le VIH et du jour au lendemain, on se retrouve sans traitement, il y a de nouveau une réplication virale et il faut le temps de trouver un médecin, mais malgré ça. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments pour lesquels je me dis « Non, mais à quoi ça sert que je sois là ? De toute façon, je ne peux même pas aider la personne. » J'espère que je réponds à votre question.
Clara ? Vous avez un peu
Je dirais juste que, en effet, ce que j'ai dit, c'est que je ne trouvais plus les paroles, mais en même temps, enfin, une petite satisfaction, c'était, il se trouve que je parle l'arabe. Et donc, quand la personne retenue avait du mal à s'exprimer en français et que je disais que je parlais l'arabe, alors parfois la personne se disait, oula, elle parle arabe, donc elle est là pour essayer de savoir de quel pays je viens. Donc moi, je disais, je suis médecin, je suis l'hôpital, je ne suis pas la police. Et donc parfois, quand je parlais l'arabe, eh bien, la personne était complètement soulagée et me disait « Ah là là, mais là je vais pouvoir voilà, me lâcher, enfin, exprimer ce que je ressens ». Et donc voilà, c'était peut-être une certaine satisfaction en se disant « Au moins il y a eu ces 10 minutes ou un quart d'heure de répit pour la personne parce qu'on a pu avoir une consultation tranquillement ». Après, comment vous pouvez militer ? Donc moi, ce que je me disais, c'est que je suis en train de militer de manière professionnelle en participant à des congrès, à des interventions où j'étais en train de décrire ce qui se passe dans le centre de rétention, parce que finalement, à l'extérieur, personne, c'est très mal connu. Donc déjà, juste le fait d'en parler et que les personnes réalisent qu'il y a de tels lieux qui existent en France, je pense que ça, c'est déjà... C'est déjà pas mal. Après, le fait que d'avoir pu participer au groupe de travail pour mettre en place la circulaire, je me suis rendu compte qu'il y avait des idées que nous, médecins qui avions participé au groupe de travail, avaient quand même été reprises, en sachant qu'en effet, l'idéal, ce serait que les personnes ne soient pas enfermées et qu'il faut qu'elles soient expulsées, qu'elles soient au moins assignées à résidence, et puis ensuite que peut-être que la loi soit appliquée, hein, parce que moi je ne pouvais pas non plus dire, il faut, je ne peux pas, en tant que médecin professionnel, je ne pouvais pas dire à la Direction générale des étrangers en France, non, il ne faut pas expulser la personne, mais il fallait que j'essaie de mettre en avant ses droits à la santé quand elle était enfermée.
Oui, tout à fait, parce que vous étiez dans une situation à un moment donné, à un endroit T. Il y a quand même des gens, il y a de plus en plus de personnes qui militent pour la liberté de circulation et d'installation. Le GISTI a été une des premières associations à le faire dans sa lettre à Jospin il y a 20 ans. Elle était très isolée, parce que les gens disaient, oui, alors pas d'enfermement, mais quand même, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, vous connaissez l'expression. Et en fait, on s'aperçoit en pratique que faire le tri, faire le départ entre ceux qu'on veut bien garder, essentiellement pour les mettre au travail, et les autres, c'est très compliqué d'un point de vue éthique. Donc au fur et à mesure, quand même, il y a beaucoup d'associations qui aujourd'hui militent pour la liberté de circulation et d'installation inconditionnelle de toutes et de tous, et donc ce qui revient à militer pour l'abolition des centres de rétention administrative. Et lorsque vous disiez que 60% des personnes étaient libérées, on peut peut-être même aller plus loin, parce que alors, c'est vrai qu'en Outre-mer, où à peu près plus de 20 000 personnes sont enfermées, la plupart sont expulsées, parce qu'en Outre-mer, notamment à Mayotte, les règles sont dérogatoires et que les personnes sont quasiment renvoyées du jour au lendemain vers les Comores. Donc le taux d'expulsion depuis le centre de Mamadou est très important. Mais si on met de côté Mayotte, qui est une situation particulière, extrêmement intéressante, mais un peu particulière, si on se concentre sur l'Hexagone, sur les 17 000 personnes dont on parlait tout à l'heure, finalement, il n'y a que 3 500 personnes qui vont être expulsées hors de l'Union européenne. Il y a quelques Dublinés, donc 1 000 et quelques. Alors, le système Dublin, donc on se répartit les gens pour examiner leur demande d'asile. Là, on est vraiment au bout de l'ubuesque, hein, puisque la personne dont tu parlais tout à l'heure, elle va être expulsée vers l'Italie et elle va souvent d'abord être dans l'errance pendant plusieurs mois avant d'être que sa demande d'asile soit prise en charge pour être finalement rejetée. Mais donc, elle va être au bout de 2 ans, elle va avoir sa demande d'asile rejetée en Italie, mais finalement, elle sera là, et sa vie sera là et elle sera là. Et donc, il faudrait au contraire s'intéresser à comment faire en sorte qu'elle soit bien ici pour qu'on puisse tous et toutes en tirer aussi une certaine forme de richesse humaine, j'entends. Et donc, si je mets de côté ces 1 500 personnes dublinées, parce qu'on les expulse, les dublinés, vers l'Italie, vers l'Allemagne, machin, mais nous, on en récupère aussi. Hein. Eux, ils font des tableaux, il y a le solde positif, le solde négatif, comme ils appellent. Et en général, la balance, c'est à peu près 200, 300, machin. Donc tout ça, ça sert vraiment... C'est vraiment juste une machine à mettre les gens... À mettre les gens en orbite, quoi. Et à criminaliser aussi les demandeurs et les demandeuses d'asile. Donc si on met ça de côté, on réussit entre guillemets, en 2023, a expulsé hors de l'Union européenne 3500 personnes. Donc tout ça, toute cette machine a broyé les gens pour se débarrasser, entre guillemets, de 3500 personnes. Mais c'est complètement fou. Et en fait, donc ça prouve bien aussi, soit les gens qui nous dirigent sont complètement débiles, ce qu'on ne peut pas complètement exclure, soit ils sont hyper cyniques, soit les deux. Mais, mais ils savent très bien que ce qu'ils mettent en place ne fonctionne pas. Donc toutes les polémiques actuelles sur les OQTF qui ne sont pas exécutées, etc., on pourra en parler. Mais ils le savent très bien qu'on n'arrive pas à expulser les gens. Mais on a beaucoup de mal à le faire pour tout un tas de raisons, les laissez-passer consulaires, etc. Mais ils continuent à alimenter cette machine pour envoyer le signal que vous n'êtes pas les bienvenus et si vous venez, on va vous précariser, on va vous humilier, on va vous enfermer et on va tout faire pour que votre vie soit un enfer.
Voilà. Et puis les questions d'appel d'air, c'est n'importe quoi parce que finalement les chiffres montrent que 0, alors j'ai oublié le pourcentage exact, hein, des réfugiés ou des demandeurs d'asile ou des exilés arrivent en Europe et que la plupart se retrouvent en fait dans les pays limitrophes de leur pays de provenance. Et que finalement, il y a finalement, malheureusement, il y a très peu de personnes qui arrivent en France, au final, aussi.
Il y avait Cyril, je crois, Marine et Sana.
J'avais une question pour vous, madame, et une autre pour vous, madame. Je voulais savoir, au niveau des rapports annuels qui étaient effectués, parce que vous avez dit que maintenant, il y avait 5 associations qui pouvaient faire ce rapport-là. Est-ce que ce rapport annuel est fait au sens de ces associations ont droit à une visite dans l'année, ou alors est-ce qu'il y a un suivi régulier de...
Non, alors c'est une bonne question. Elles sont présentes, ces associations, elles se répartissent donc les centres de rétention. Il y a Forum Réfugiés, il y a l'Ordre de Malte, la CIMAD, France Terre d'Asile, ouais, ça j'avais oublié. Et donc le ministère de l'Intérieur leur attribue les centres de rétention, donc il y a des négociations, et elles sont présentes du lundi au vendredi en centre, et je dis n'importe quoi, de 9h30 à 17h. Et donc elles ne sont pas présentes le week-end aussi, parfois on arrive le vendredi soir, il y a des recours qui doivent être faits assez rapidement dans les 48 heures et s'il n'y a personne pour aider la personne à faire son recours, elle est toute seule. Donc, non, elles sont présentes quand même de manière continue, mais pas permanente. Voilà. Et dans le rapport annuel, on s'aperçoit d'ailleurs que la qualité des petites pages concernant chaque centre dépend aussi des associations qui interviennent. La CIMAD notamment, qui intervient depuis très longtemps, acquis une expertise et aussi, bizarrement, d'une certaine façon, une indépendance vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, plus grande que d'autres associations, notamment France Terre d'Asile, pour ne pas la citer, qui, par ailleurs, a travaillé notamment avec la mairie de Paris pour l'évaluation de la minorité des jeunes. Voilà. Le problème aussi, c'est que certaines associations travaillent de manière si étroite avec l'État qu'elles sont dépendantes des marchés publics des marchés qu'elles obtiennent, qu'ils obtiennent auprès de l'État et que du coup elles deviennent des sortes de partenaires de l'État.
D'ailleurs, je pense que la CIMAD était présente dans tous les centres de rétention et je ne sais plus quelle année l'État
Sarkozy. Sarkozy 2006.
La CIMAD a ouvert aux autres associations.
Oui, condamné pour trafic d'influence et corruption. Non, mais il a dit, voilà, il faut ouvrir à la concurrence. Cela dit, la CIMAD s'est retirée du centre du Ménil-Amelot, donc qui est un des plus gros centres de l'Hexagone, s'est retirée du centre du Ménil-Amelot en 2023 pour protester contre les expulsions illégales. C'est-à-dire, il y a des expulsions qui intervenaient en dépit des procédures entamées ou des demandes d'asile en cours. Ils se sont retirés, ils ont négocié avec le ministère de l'Intérieur et bon après ils sont revenus mais finalement ça n'a rien changé, les expulsions illégales perdurent. Et d'ailleurs la France s'est fait condamner en 2024 par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour avoir expulsé une personne à l'encontre, là en l'occurrence de l'avis du médecin de l'OFI qui disait que la personne n'aurait pas de soins. C'est-à-dire que vous savez, vous ne pouvez pas expulser quelqu'un vers un pays où elle risque des traitements inhumains et dégradants, c'est contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et si elle n'a l'arrêt du traitement expose cette personne à la mort, c'est qu'on ne peut pas l'expulser. Et là, le médecin avait dit que non seulement elle risquait la mort là-bas, mais en plus, elle n'était pas en mesure de supporter un transport vers le pays. Et elle avait quand même été expulsée, alors que c'était un médecin, justement, du ministère de l'Intérieur. Et bon, on s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait entre-temps aussi pris une mesure provisoire. Mais vous voyez, on est un peu loin de l'état de droit.
Et pour revenir à votre questionnement sur la présence de femmes à Mini-Vamelot, est-ce que ce ne serait pas parce qu'il y a l'aéroport et qu'il y a des vols internationaux? Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi des femmes.
Il y a plus de femmes, me semble-t-il, parce que notamment la prison de Fleury-Mérogis, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, reçoit énormément, là ça fait 5 ans, il y a une augmentation massive des Brésiliennes qui transportent. Et qui, par ailleurs, font l'objet d'une vraie stigmatisation au sein même de l'établissement, tant entre détenues elles-mêmes que vis-à-vis de certains membres du personnel, et qui, en fait, sont dans ce continuum de l'enfermement, c'est-à-dire elles passent directement de la prison au CRA et elles partent. Alors, ça n'explique certainement pas le taux, mais ça en constitue en tout cas une partie. Cyril, vous aviez une autre question?
Donc la capacité théorique quand j'y étais, c'était 136, mais en fait il y avait toujours peut-être en permanence 70 ou 80 personnes retenues. Et en gros, moi je faisais des demi-journées, donc je pouvais avoir 10 ou 12 patients à voir sur une demi-journée. Et si quelqu'un, je ne sais pas, était en souffrance, je lui proposais, on est lundi, je reviens mercredi, si vous voulez, on se revoit en consultation mercredi. Mais je n'étais pas sûre que j'allais le revoir, mais c'était souvent possible, et donc j'arrivais pour certains à faire en effet un suivi.
Bon. Mais il faut voir le documentaire, c'est je ne sais pas où vous serez demain. Oui. Clair sur toutes ces questions.
C'est plus en accéléré. Ça l'était, mais je crois que ça l'est plus. Marine, je crois.
C'est dans le prolongement, une petite question pour vous, docteur Manchour. Je voulais savoir combien vous étiez de professionnels au niveau de l'équipe médicale, s'il y en avait une, au centre de rétention et à la prison des Baumettes, et combien, selon vous, il faudrait de professionnels pour répondre aux besoins des personnes.
Alors, au centre de rétention, oui. Alors, à la prison, on était peut-être 8, mais je pense que la prison était bien dotée en médecins, parce que dans d'autres prisons, dans d'autres unités de consultation et de soins ambulatoires, il y avait un grand manque de médecins. Donc, il se trouve qu'à Marseille, là, on était... ça allait bien, on va dire. Et au centre de rétention, on était 3 médecins à tourner. Mais bon, c'était... Ça pouvait être assez lourd. Hein. Moi, je faisais en fait, 3 ou 4 demi-journées, alors que les autres, chacun faisait une demi-journée. Et par contre, là où vraiment on sentait qu'il y avait un besoin, c'était d'avoir un psychiatre. Et en fait, pendant le groupe de travail, la Direction générale des étrangers en France, ils étaient plutôt favorables pour avoir une psychologue, mais on disait oui, mais la psychologue, elle n'est pas là pour tenir la main de la personne, pour la préparer à l'expulsion, et en même temps, elle va très vite être dépassée, et même nous, en tant que médecins, parce qu'on avait besoin d'avis spécialisés de psychiatres, parce qu'il y avait vraiment... Enfin, la prévalence aussi de pathologies psychiatriques réelles était importante, mais il y a eu un blocage, et finalement, dans la circulaire, il est dit qu'il faudrait avoir accès à une consultation avec un psychiatre à l'extérieur. Mais nous, le plus souvent, c'était les urgences psychiatriques et ça dépendait vraiment du psychiatre sur lequel la personne tombait pour avoir des soins, ne pas être envoyée au centre de rétention. Enfin, c'était pas évident. Et on était très vite complètement démunis.
Et c'était 3 médecins généralistes.
Oui.
Okay. Et comment ça se passait avec les 2 collègues? Est-ce que vous étiez tous sur la même... Parce que tout, je le dis, tu ne vas pas le dire, tous les médecins en centre de rétention n'ont pas la même philosophie que toi, que vous. Donc, comment ça se passait avec tes collègues?
Non, avec mes collègues, ça allait, mais comme ils étaient là juste une demi-journée, pour eux, c'était plus difficile de faire un suivi. Et puis, la chef de service, c'était la psychiatre, qui est d'ailleurs le docteur Paulet, qui est qui fait partie du comité de prévention contre la torture, qui est quelqu'un de... Et qui me disait, non mais Rime, nous les psychiatres, parce qu'elle s'occupait aussi du service de psychiatrie des Baumettes, il est hors de question qu'on intervienne en centre de rétention, parce que quand... Oh, mais comment veux-tu qu'on supporte la souffrance des personnes? Et je lui disais, mais comment veux-tu que moi je supporte leur souffrance? Bon, donc voilà, j'étais pas très... j'avais vraiment l'impression d'être isolée et pas soutenue.
C'est juste une question intermédiaire, mais vous n'étiez que des femmes médecins en centre de rétention?
Non, il y avait hommes et femmes.
Ok.
Et moi j'ai une question, je profite, je suis désolée. Souvent on entend dire, alors, je suis assez mal à l'aise vis-à-vis de cette assertion, on entend des gens qui disent que le centre de rétention c'est pire que la prison. C'est moins long quand même. Le problème entre la peste et le choléra, c'est ça, c'est toujours un peu délicat, mais c'est pire que la prison parce qu'ils n'ont pas d'activité, parce que qui leur est proposé, parce qu'il y a le stress de l'expulsion.
Moi, je me disais qu'en tant que médecin, je pouvais soigner. C'est-à-dire quand je voyais un détenu qui arrive à la prison, il y avait l'équipe de psychiatres, il y avait l'addictologue, donc j'avais l'impression d'une certaine satisfaction, c'est-à-dire que j'étais en train de soigner mon patient et qu'il y avait peut-être un laps de temps, enfin, malheureusement, hein, en sachant que je sais que c'était une maison d'arrêt et que probablement certains étaient innocents, hein, mais étaient quand même enfermés. Alors que dans le centre de rétention, on se dit non mais la seule chose que la personne a fait de mal, c'est de ne pas avoir de titre de séjour, donc c'est beaucoup plus difficile à avaler et a priori en prison, on se dit un jour la personne va être libre. Alors qu'en rétention, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a pas d'activité, il y a une incompréhension de la part de l'hôpital quand on envoie la personne. Des fois, quand j'appelais un service pour dire « voilà, je vais vous envoyer une personne, elle se trouve en centre de rétention », je me disais « bon, je vais expliquer où je suis ». « Bon, c'est une personne qui n'a pas de titre de séjour ».« Ah ben, heureusement qu'il y a des lieux comme ça, madame ». Alors bon, moi, c'est ce qu'on me répondait au bout du fil. Ou alors aux urgences psychiatriques, on nous rappelait en me disant ah, « le patient vient de s'enfuir ». Je dis, ok, enfin, pourquoi vous me le dites? De toute façon, je ne ferai rien de plus, et c'est la responsabilité de la police, et pas moi. Enfin, donc c'était quand même très particulier, et de voir nos patients qui sont sans titre de séjour partir en consultation médicale, menottés dans une voiture de police, ça me stressait complètement.
Et pour les personnes enfermées, tu penses que c'était pire d'être en rétention qu'en prison?
Je pense que c'est difficile de le dire parce que ça dépend vraiment de l'histoire personnelle de chacun et comment il va réagir à l'enfermement.
Anna, je crois que vous avez une question.
Moi, c'est une question par rapport à la mixité dans les centres de rétention. Je voulais savoir pourquoi est-ce que dans les prisons, on a un peu de séparer comme ça, mais pourquoi dans les centres administratifs, on est en train de...
Non, mais c'est-à-dire que dans les centres de rétention administrative, tu es censé y rester un petit peu moins longtemps. Et il y a une circulation des personnes plus grandes qu'en prison. Donc il faudrait avoir deux quartiers complètement différents. Déjà, il y a un problème de locaux. Il y a des centres où ils ont, ouais, comme vous l'avez dit, je ne sais plus, qui ont fermé le quartier, l'endroit pour recueillir les femmes. Je pense que... parce que... la vie est un peu, enfin, la circulation est un peu plus libre à l'intérieur du centre de rétention et qu'il faudrait construire vraiment des centres de rétention spécifiques pour les femmes. Je sais pas.
Bah là, à Marseille, il n'y avait pas de libre circulation. Ils étaient dans ce qu'on appelle des peignes, donc c'est un couloir avec une porte fermée à clé et c'est au bon vouloir du policier pour sortir et pour venir à la consultation, par exemple. Et chaque peigne avait sa petite cour et du coup les femmes étaient dans un peigne isolé. Alors qu'en prison, enfin là, à la prison des Baumettes, les psychiatres ont fait l'expérience de faire des groupes de parole mixtes, détenus hommes et femmes. Alors que ça, en centre de rétention. Enfin, bon, voilà. Après, ça dépend vraiment de localement comment les choses s'organisent.
Et après, pour répondre sur l'absence de mixité en prison, c'est vraiment le fonctionnement historique de la prison qui l'explique, mais il y a plusieurs facteurs qui ont justifié qu'on fasse une séparation entre les hommes et les femmes. Il y avait d'abord un facteur de préservation morale de la femme qui ne devait pas être contaminée en fait, par le
crime masculin, il y avait l'idée de lutter en fait contre les rapprochements sexuels éventuels et surtout d'éviter les naissances en prison parce que c'était une des grandes craintes. Et puis les hommes et les femmes n'étaient pas surveillés par les mêmes personnes. Historiquement, les femmes étaient prises en charge par des religieuses avec l'idée qu'on pouvait les remettre dans le droit chemin, et puis avec tout ce que ça comporte, religieuse catholique en l'occurrence, avec tout ce que ça comportait aussi comme, comme précepte et comme perception de ce que devait être une femme digne, réinsérée, etc. Mais c'est assez multifactoriel. Et même si aujourd'hui il y a des activités mixtes en détention, ça reste quand même assez mineur. C'est autorisé depuis très peu de temps et ça reste quand même très épisodique. Et ça dépend vraiment des établissements, des traditions des établissements, des chefs d'établissement qui décident de ça. Donc, c'est... Bon, comme les activités de loisirs en prison maintenant sont quasiment sont en train d'être interdites de plus en plus, ça risque en plus d'être relégué vraiment à quelque chose de plus résiduel encore. On va peut-être oui, continuer, puisque peut-être, mais on vous écoute, mais c'est vrai que... Non, c'est comme tu veux. Je veux savoir si je t'attends ou pas.
Non, j'ai fait un petit tour, pardon.
Ouais, du coup, je me retrouve toute seule alors que j'aurais bien aimé être accompagnée de toutes ces femmes des jours. Voilà, super. Donc, bah, écoutez, je vous remercie d'abord de l'invitation. C'est vrai que ce n'est pas un exercice facile. Je me rends compte qu'un prétoire ou un auditoire dans un amphithéâtre, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et donc, oui, je vous remercie pour cette invitation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas faire des redites. J'ai pris des notes, mais je crois que je vais les laisser de côté et je crois que je vais vous parler... voilà, de ma pratique professionnelle, peut-être prendre un ou deux éléments qui n'ont pas été encore abordés, mais voilà, on n'est pas là pour la redite. Donc, bien sûr, vous pourrez me poser des questions sur, bah, sur ma pratique professionnelle. Je vous livre la mienne, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on porte la magnifique robe d'avocat, puisque j'en suis très fière, on a chacun une pratique qui peut être différente. Donc voilà, aujourd'hui, c'est mon témoignage à moi. Dans ces deux domaines, puisque Madame m'a demandé de vous parler de la rétention administrative et de l'hospitalisation sans consentement. Donc je crois qu'il y a quand même un lien, puisque nous parlons des femmes, nous allons revenir. Alors certes, le sujet est très, très intéressant. Évidemment, le droit des étrangers, c'est ce que je fais, ce que je pratique au quotidien, et je dois même dire que c'est ma passion. Tout le monde me dit mais pourquoi ? Mais c'est comme ça. C'est comme ça parce que si je dois faire le lien avec les hospitalisations sous contrainte, je vous dirais que ce qui est très intéressant, c'est la rencontre avec la nature humaine. Et donc dans ces deux cas, quand vous êtes dans cette pratique quotidienne, vous êtes amené à être en relation avec l'autre dans la plus grande difficulté, dans la plus grande précarité aussi. Et cette nature humaine, elle est toujours, bien, nous enseigne sur un plan personnel beaucoup de choses. Alors quand on porte la robe, effectivement, c'est comme un rempart. Mais on se questionne énormément. Alors, on devrait se questionner encore plus, je dirais, mais c'est vrai que par manque de temps, c'est pas toujours si évident que ça. Alors, je ne sais pas par quoi vous voulez que je commence. Peut-être par vous dire que ces deux sujets, en fait, sous l'angle, puisque n'oublions pas que notre sujet principal, ce sont les femmes quand même, et que je dirais que pour la rétention administrative, j'y reviendrai, que l'hospitalisation sous contrainte sous l'angle de la femme, finalement, et vous l'avez également redit, il n'y a pas beaucoup de matière. Et que, effectivement, pour vous en parler, c'est nos témoignages personnels et c'est notre profession qui fait que nous pouvons vous en parler, puisque notre quotidien, c'est celui-là. Et dans ces deux domaines-là, sur la partie rétention administrative, eh bien, en fait, je vais vous dire très simplement, c'est-à-dire que les femmes migrantes, quelle que soit leur situation et le fondement sur lequel elles ont été placées en rétention, pour le dire les choses vulgairement, c'est une personne étrangère et que donc la personne étrangère aujourd'hui, et notamment la préoccupation de la femme étrangère et ses particularités et ses besoins, finalement, on s'en fiche complètement. Et donc, effectivement, j'ai essayé, moi aussi, de regarder s'il y avait de la documentation sur la vulnérabilité, je dirais, de la femme migrante. Et vous n'en avez pas réellement, parce qu'elle n'intéresse pas. D'une façon générale, et nous avons débordé un peu sur les centres de rétention, etc., d'une façon générale, mais parce qu'effectivement, la question de l'étranger en situation irrégulière aujourd'hui, et sa santé, finalement, et donc y compris, plus particulièrement, la santé de la femme migrante, elle ne préoccupe absolument pas. Et donc, je rebondirai plutôt sur une des questions qui a été posée, c'est comment faire en sorte de parler des choses aujourd'hui. Comment faire en sorte d'en parler, c'est de dénoncer les choses. Alors, dénoncer, ça peut avoir une connotation assez négative, mais je voudrais l'utiliser d'une façon positive. C'est-à-dire que nous sommes là pour vous en parler, pour alerter votre attention sur ces situations, ces problématiques, pour que vous en ayez connaissance, puisque vous êtes la nouvelle génération et que demain, vous vous apprêtez à embrasser des professions, quelles qu'elles soient, mais que vous ayez conscience de la réalité de ce terrain, qui n'est pas évident au quotidien, et notamment pour l'avocate que je suis. Je vais revenir dessus. En ce qui concerne l'hospitalisation sous contrainte, je vais essayer de faire des parallèles comme ça. Je me suis posé également la question de savoir pourquoi la vulnérabilité particulière de la femme, et donc je rejoins le commentaire que j'ai fait tout à l'heure sur les particularités de la femme à ne certainement pas oublier, c'est que finalement, je pense que la santé mentale, c'est quand même assez nouveau dans le cadre des pouvoirs publics d'avoir un travail dessus. Et donc, effectivement, il y a un début de recherche sur la santé mentale de la femme et ses particularités. Vous avez quelques rapports qui ont été publiés, mais c'est assez nouveau. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi une des raisons qui font qu'aujourd'hui, vous n'avez pas donc beaucoup de documentation. Et le pourquoi, on n'en a pas réellement parlé jusque-là, mais que, effectivement, ça fait partie du combat pour les femmes et que c'est à nous également de pouvoir en parler aujourd'hui pour essayer de faire avancer la cause des femmes. Alors, je ne sais pas par quoi je commence, je n'en sais rien, je me lance, évidemment, mon sujet de prédilection, c'est la rétention administrative, c'est le droit des étrangers, mais je vais le laisser pour la fin, le meilleur pour la fin. Alors, sur la partie hospitalisation sans consentement, je vais essayer de résumer, puisque encore une fois, les choses ont été dites, mais je crois que la spécificité des femmes aujourd'hui en matière de santé mentale représente un enjeu social qui est majeur. La réflexion sur la question santé mentale de la femme à mon sens, entraîne peut-être une autre interrogation qu'on pourrait avoir, et là je m'adresse aux universitaires, parce que c'est vrai que c'est très intéressant, mais que nous, voilà, au quotidien, on n'a pas le temps forcément de se pencher sur la question, mais l'idée est la suivante, je vais essayer de la formuler, c'est de nous dire qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, nous essayons donc, voilà, de faire avancer la cause de la femme, mais que dans le même temps, il y a autre chose qui se passe, à mon sens, c'est que finalement, dans l'esprit commun, les choses ont du mal à avancer. Je parle de quoi ? Je parle, par exemple, je vais vous donner un exemple, un nouveau sujet, voilà, la charge mentale. Tout le monde en a entendu parler de cette charge mentale. Et effectivement, quand on intervient dans les hôpitaux, on voit beaucoup cette nouvelle notion, enfin, qui existait déjà finalement, mais on n'en entendait pas parler. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que la charge mentale, il y a plusieurs années en arrière, elle existait, sauf que personne n'en parlait. On est bien d'accord que la femme qui était à son domicile, qui s'occupait des enfants et qui devait s'occuper de plein de choses, elle n'avait absolument pas le droit de se plaindre et c'était sa fonction. Et aujourd'hui, parallèlement à ça, vous avez quand même, vous avez quand même ce combat pour les femmes qui avance et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, bien plus qu'avant, d'avoir des carrières, d'avancer dans nos parcours professionnels. Là se pose un véritable problème parce que dans le même temps, dans l'esprit commun encore, et c'est là où il y a encore un retard quand même, c'est-à-dire qu'on inculque chez nos plus jeunes cette notion quand même que la femme, devant être parfaite, doit pouvoir effectivement dans le même temps avoir nouvellement sa carrière professionnelle, mais dans le même temps quand même, elle s'occupe de son foyer, elle s'occupe de ses enfants. C'est un exemple pas très loin, c'est-à-dire que je peux vous donner mon propre exemple, je n'ai rien à cacher, c'est-à-dire que là je suis déjà en train de me dire, mais j'ai complètement oublié d'appeler mon mari, a-t-il pensé qu'il y avait cours de tennis ce soir ? Voilà. Donc vous voyez que, en fait, ce sont des choses qui sont encore présentes aujourd'hui et qui font qu'il y a un certain blocage encore et que ces deux notions-là, qui sont très difficiles, font que aujourd'hui, donc pour prendre cet exemple de charge mentale, eh bien on le voit très fréquemment quand on intervient dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà, c'est l'exemple de départ que je voulais vous donner pour vous dire que si la société évolue, eh bien, voilà, il y a plusieurs stades et on n'en est pas quand même complètement à la libération de la femme qui est capable en même temps de s'occuper de son foyer, mais qui en même temps avance dans sa carrière professionnelle. Alors, les interventions en hospitalisation, enfin pour les hospitalisations sous contrainte, donc quand on intervient, je vais quand même vous donner un petit peu le cadre puisque c'est en 2011 si je me souviens bien. Donc une réforme qui permet donc un contrôle du juge judiciaire sur le fondement de l'article 66 donc de la Constitution, puisqu'il y a une privation de liberté. Donc vous avez plusieurs types d'hospitalisation sous contrainte. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur la présentation encore. Vous m'avez vraiment intéressée parce qu'on se rend compte que finalement, on n'est pas si loin de l'histoire et qu'aujourd'hui, les fondements sur lesquels on peut procéder à une hospitalisation sous contrainte, finalement, c'est les mêmes. À quelque chose près, nous avons à la demande d'un tiers, nous avons à la demande du représentant de l'État, donc du préfet. Donc voilà, les fondements sont quand même les mêmes. Donc en 2011, ce qui va se passer en ce qui concerne, puisque voilà, on parle encore une fois de la pratique, alors donc je vais vous parler de ma pratique en 2011, avec cette nouvelle loi, le juge judiciaire va intervenir dans les hôpitaux. On va le saisir, l'hôpital va le saisir, il y a un contrôle qui est effectué donc dans les 12 jours, il y a une saisine dans les 12 jours du juge judiciaire, et donc là on est en 2011, Et on se pose la question de comment, donc, au niveau de chaque tribunal judiciaire, on va organiser ces audiences. Parce que c'est vrai qu'un juge et un avocat qui arrivent dans un hôpital psychiatrique, pour faire quoi, comment, enfin tout ça, c'était un peu flou. Et je me souviens très bien de cette époque, puisque ça n'intéressait pas beaucoup les avocats. Et c'était Madame Rome, à l'époque, qui était juge des libertés de la détention, donc qui avait décidé, elle, en concertation certainement avec ses supérieurs, donc une magistrate extraordinaire, magnifique. donc il avait décidé que elle mettait toujours un point d'honneur hein, à juger les gens, mais dans la plus grande dignité. Et d'ailleurs, elle faisait également office de JLD pour les étrangers. C'était un bonheur. C'est la première. Je fais une petite aparté. Il faut quand même que je vous en parle de cette femme extraordinaire. C'était donc la première magistrate devant qui j'ai plaidé. À l'époque, à Pontoise, donc le juge des libertés de la détention, on avait un local de rétention à Cergy qui faisait que les étrangers donc, qui étaient placés en rétention étaient adressés devant le JLD pour savoir si ils étaient renvoyés vers leur pays d'origine ou pas. Et donc j'arrive, donc je suis très jeune avocate, hein, je viens de prêter serment et c'est la première magistrate devant qui je plaide. Et là, je me dis waouh. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle avait pris le soin de l'entendre, de l'écouter. Malheureusement, elle n'avait pas pu faire annuler la décision de placement en rétention, parce qu'il n'y avait pas de nullité à pouvoir soulever dans le dossier. Ben, je vous assure que la personne, en fait, une fois qu'elle lui a annoncé le résultat en lui disant « Écoutez, je ne peux pas annuler l'arrêté de placement en rétention », eh ben, elle avait fait les choses tellement d'une façon digne que souvent ça donnait lieu à des sourires alors que même la personne finalement elle n'avait pas eu son résultat quoi. Et donc moi je pensais que tous les magistrats étaient comme ça, mais voilà, malheureusement non, on n'a pas toujours cette même écoute. Donc je me suis un petit peu éloignée, je ne sais plus de quoi je vous parlais. De 2011. Donc, en tout cas, Madame Rome arrive à obtenir que ces audiences soient foraines, c'est-à-dire que nous allions tous, donc le magistrat et l'avocat, dans les hôpitaux du 95. Donc, vous avez des permanences aujourd'hui. Le lundi matin, ça va être Pontoise. Le jeudi après-midi, c'est Moisselle. Donc, vous avez tous les hôpitaux psychiatriques, on va dire, du 95. Et il y a cette spécificité sur le 95 où le magistrat et l'avocat se rendent directement dans l'hôpital psychiatrique. Et je trouve que c'est une très très bonne chose parce que déjà pour la personne elle-même, avant de parler de nos conditions de travail, il faut toujours penser aux personnes qu'on défend et les magistrats aux personnes qu'ils jugent. Parce que emmener quelqu'un qui a des complications d'ordre psychiatrique dans un tribunal peut augmenter son stress. Enfin bon, c'est juste pas possible de se dire, une personne qui n'a rien fait, qui n'a pas commis de crime ou de délit, de se rendre dans un tribunal. Il est mieux quand même dans l'hôpital psychiatrique, entouré des médecins et d'un environnement qu'il connaît. Et nous avons donc cette chance-là de pouvoir intervenir dans les hôpitaux. Ce que ça m'a enseigné, c'est dans un premier temps que je vous parlais de nature humaine. Oui, c'est exactement ça, parce que donc vous avez le contact avec la personne. Et c'est vrai qu'au début, on peut se dire, si la personne est complètement délirante, à quoi ça sert, quoi? Et en fait, ça sert. Ça sert parce que, là je vais vous parler du rôle de l'avocat, ça sert parce que vous avez une personne qui est en grande détresse et contrairement à ce qu'on peut penser, sauf dans des cas d'extrême où la personne est vraiment délirante, où elle n'est pas auditionnable, etc., eh bien vous êtes la première écoute autre que le médecin ou autre que le psychiatre que la personne peut avoir. Et donc vous avez l'entretien avec cette personne. ça c'est un moment qui est extraordinaire aussi dans la vie d'un avocat, c'est l'entretien que vous menez avec la personne que vous défendez. C'est extraordinaire, en même temps c'est très contrariant. Mais que ce soit pour les personnes en hospitalisation sous contrainte ou également pour les personnes étrangères et notamment les femmes, et j'y reviendrai. C'est extrêmement contraignant parce que on vous fait part, vous intervenez souvent dans l'urgence et vous n'avez clairement pas le temps, enfin vous n'avez pas plus de temps que ça, que ce seul entretien, pour vraiment prendre le temps. Je dirais comme un médecin qui soigne son patient, et bien là, un avocat qui entend le parcours de la personne ou ses difficultés ou ses fragilités psychologiques. Donc ça, c'est vraiment une problématique, effectivement, je dirais, quand on porte la robe, de ne pas avoir assez le temps dans les situations, dans les matières d'urgence que sont, donc voilà, quand on intervient pour les hospitalisations sous contrainte, ou dans le cas de la rétention, de ne pas avoir ce temps-là qu'on devrait dédier dans l'intérêt de la personne qui a besoin de se livrer. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, sur la réalité du terrain, et pour en revenir plus spécifiquement aux femmes, dans le domaine de l'hospitalisation sous contrainte, on voit effectivement, enfin moi j'ai pas fait d'études, hein, je suis pas universitaire, moi je peux vous parler que de ce que je vois, et donc j'en fais assez souvent pour vous dire qu'effectivement on voit de plus en plus de femmes, et de plus en plus de femmes avec un même profil. Donc j'en ai dégagé certains, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure sans vouloir faire peur, beaucoup d'étudiants, donc beaucoup d'étudiants en fin d'études qui décompense. Alors, j'imagine, hein, le médecin est là pour nous le dire, qu'il y a certainement une fragilité psychologique à la base, mais quand même, c'est quelque chose qu'on voit de façon de plus en plus récurrente, les étudiants. Et donc, j'imagine qu'avant, on n'en parlait pas du tout et qu'on ne les retrouvait pas, en tout cas, dans ce que vous nous avez présenté, mais à aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, Peut-être le stress constant de la société, peut-être le fait de devoir absolument réussir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté. J'ai constaté également aussi, j'en reviens à ma charge mentale, beaucoup de femmes, énormément de femmes, quarantaine d'années, avec des enfants en bas âge, qui sont parfaitement installés, qui ont leur travail, et qui, elles aussi, à un moment donné, de trop de stress, de trop d'obligations, se retrouvent hospitalisées dans les mêmes conditions que les autres, personnes. Et ça revient très fréquemment. Je voudrais vous parler aussi des femmes dont on parle le moins, c'est les femmes seniors. Vous en avez également beaucoup. Alors, c'est quand je dis seniors, ce n'est pas âgées, mais c'est des femmes, effectivement, dont le profil, se dessine de la façon suivante. Des femmes qui sont seules, qui sont isolées, qui ont perdu, il y a beaucoup de, voilà, le deuil est très, très présent quand même, et qui se retrouvent effectivement seules, et qui à cette occasion présentent des fragilités psychologiques. Et ça me paraît toujours très étonnant parce que effectivement on ne s'attend pas du tout à ce que cette fragilité psychologique puisse avoir pour conséquence une hospitalisation sous contrainte. Mais ça fait, je pense, également référence, hein, je fais mes déductions moi-même, en fait, de beaucoup de solitude également qu'on retrouve dans notre société actuelle. Alors, ce que je suis en train de vous dire, en fait, je réfléchis en même temps que je vis les choses ou quand je vous parle. C'est-à-dire que je crois que, quel que soit le sujet qui nous occupe aujourd'hui, il est forcément en relation avec la société dans laquelle on vit. Et que donc, que ce soit les femmes hospitalisées sous contrainte ou les femmes en rétention, je pense que la réflexion qu'on doit mener, c'est comment les appréhender avec les facteurs sociétaux d'aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit dans un premier temps qu'effectivement, c'est bien, aujourd'hui, c'est bien beau de nous dire la femme est libérée, et la femme peut travailler, et la femme, a cette indépendance. Mais que, dans le même temps, il ne faudrait pas oublier que, justement, pour qu'elle puisse acquérir encore plus d'indépendance et qu'elle puisse être pleinement ce qu'elle est, avancer également, ne pas oublier d'avancer sur les autres sujets qui font encore défaut aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les préjugés qu'on peut avoir et celui de base en fait, qui est ancré, hein, on ne va pas se le mentir, celui que je vous ai donné au début aussi, c'est la femme qui va penser à qu'est-ce qu'on va manger ce soir et comment ça va se passer demain et est-ce que j'ai signé le carnet de liaison et est-ce que, voilà, ce genre de choses. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Rapport à ces femmes-là. Je vais peut-être pas revenir, sinon ça va être trop long, mais quand même, encore une fois, et pour en finir, je voudrais quand même revenir sur la réflexion que j'ai faite tout à l'heure, parce que je crois qu'elle est extrêmement importante, sur le fait de vraiment pas minimiser les causes physiques et les causes mentales dont on a parlé, puisque ce serait oublier ce qu'est la femme. Et la femme, au cours de sa vie, a plusieurs épisodes, plusieurs moments importants qui peuvent la fragiliser. Et qui peut effectivement entraîner des hospitalisations sous contrainte. Et vraiment, il faut pas en rire. Je pense, par exemple, à la ménopause. Clairement, aujourd'hui, ça peut être un facteur qui entraîne de la dépression, qui entraîne à la fin une hospitalisation sous contrainte. Vous avez la dépression postpartum aussi, qui n'est pas à négliger, puisque effectivement, c'est également un public que l'on peut croiser dans les hôpitaux psychiatriques. Et vous avez effectivement, c'est dans tous les lieux d'enfermement finalement, où on se pose les mêmes questions. La femme enceinte, là, moi je me souviens d'un dossier là qui me revient. Une femme enceinte, mais elle était à 8 mois. Hein. Et donc j'arrive à l'hôpital, et donc justement, c'était à mes débuts, c'était Madame Rome justement qui était le juge ce jour-là. Et donc j'arrive en catastrophe, je dis mais ce n'est pas possible, c'est-à-dire que il n'y avait pas de moyen de nullité pour essayer de faire lever cette mesure d'hospitalisation. Donc c'était extrêmement encadré, hein, vous savez, il faut plusieurs certificats médicaux selon la situation, mais bon, on ne va pas faire un peu de droit là, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il n'y avait pas moyen de faire en sorte que cette femme, enceinte de 8 mois, sorte. Sauf à considérer que la mesure était vraiment disproportionnée. Quoi. Donc c'est ce que j'ai plaidé, mais il a quand même fallu que le magistrat, en fait, se mette en relation avec les médecins pour qu'on essaye de trouver un protocole permettant à cette femme de pouvoir sortir, qu'elle puisse être encadrée, mais qu'elle puisse en tout cas vivre à la fin de sa grossesse quand même à 8 mois, en dehors de ces murs de l'hôpital psychiatrique. Parce que quand vous allez sur place, effectivement, quand vous avez cette chance, entre guillemets, cette chance-là de pouvoir visiter les hôpitaux psychiatriques, là, vous vous rendez compte quand même que on est loin des standards de la Cour européenne des droits de l'homme. Hein. Et ça se passe sous nos yeux. Hein. C'est-à-dire que là, dans le 95, pour exemple, l'hôpital psychiatrique de Moisselles, je ne sais pas comment vous décrire cet endroit. C'est horrible.
Et les magistrats, du coup,
je peux
poser une question. Et donc, les magistrats qui se rendent, on pourrait discuter, moi ça m'intéresserait de discuter de
justement de ces audiences foraines, parce que finalement, il n'y a pas non plus de publicité de l'audience, et puis la personne, moi, j'imagine que comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, les magistrats gardant la liberté individuelle qui se rendent dans ces hôpitaux psychiatriques qui sont. Où les conditions d'enfermement sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme.
Alors,
eux-mêmes ne voient pas de conditions.
Alors, le magistrat, il ne voit rien du tout. Hein. C'est-à-dire que nous, les avocats, on doit conjuguer avec tout ce qui se passe avant. C'est-à-dire que quand on nous annonce la veille, on va dire qu'il y a 10 personnes. Donc, il faut que nous, on appelle l'hôpital, qu'ils organisent notre visite. Donc, à Moissel, par exemple, maintenant, il faut qu'on court dans tous les bâtiments, mais on ne sait pas forcément où la personne, elle est. Et donc, en fait, on visite en même temps, c'est-à-dire qu'on rentre dans les services.
Ça se passe dans les chambres? Il n'y a pas un endroit dédié dans les salles?
Alors, en général, c'est dans la salle du médecin. Ouais. Donc, on rentre dans le service et il y a toujours un petit bureau où, en principe, c'est le bureau du médecin. Donc, on nous le met à disposition.
Pour l'entretien
Pour l'entretien avocat. Mais en fait, c'est un parcours, hein. C'est l'aventure, parce que c'est, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est-à-dire que des fois, bon, on voit bien que la personne est agitée, donc on se dit que quand même l'infirmier va rester derrière, mais non. Donc en fait, c'est à nous de. On n'est pas médecin, mais c'est quand même à nous de jauger si quand même on va pouvoir faire l'entretien ou si quand même vous êtes sûr qu'il est auditionnable, parce que là, ben voilà. Tout ça, le magistrat, il ne le voit pas. Le magistrat, il arrive.
Vous avez accès au dossier combien de temps à l'avance qu'on vous appelle la veille? Le dossier, vous l'avez.
Alors, on l'a la veille parce qu'il y a dans la procédure, on doit avoir accès à la vie médicale, ce qu'on appelle la vie médicale motivée. Donc c'est la vie médicale qui est rendue la veille pour le lendemain pour savoir si le médecin, si le psychiatre souhaite prolonger la mesure ou pas. Donc en général, oui. Mais on n'a accès que la veille. En se rendant au greffe, on consulte les dossiers. Et voilà. Et le lendemain, on y va. Et donc, juste pour finir, donc effectivement, le magistrat, lui, il arrive à l'heure de son audience. Mais nous, donc, entre guillemets, entre parenthèses, on n'a pas mangé non plus, hein, parce qu'il faut qu'on arrive suffisamment à l'avance. Mais ça aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la vulnérabilité des gens. On ne peut pas se permettre d'arriver une heure avant parce que la personne qui est sous médicament, qui est quand même. C'est compliqué. Donc, le temps qu'elle sorte de sa chambre, le temps qu'elle arrive, le temps qu'on puisse faire un entretien quand même à peu près correct, ça, il n'y a rien de pire quand on voit l'heure tourner, que la personne a envie de parler, qu'on lui dit mais je suis désolée, mais enfin, il faut que je vois trois derrière, quoi. Voilà. Et ça, le magistrat, il ne voit pas. Lui, il arrive à l'heure de l'audience, et puis voilà, l'audience commence. Et en général, quand même, la salle donc, dédiée dans l'hôpital psychiatrique, donc là, par exemple, je pense à Moisset, alors par contre, elle est toute neuve. Voilà.
Elle est ouverte au public ?
Elle est censée être ouverte au public, sauf qu'on ne rentre pas dans un hôpital psychiatrique comme ça, donc...
Juste pour les étudiantes et les étudiants, enfin, j'en ai déjà parlé à certains, mais n'oubliez pas de regarder le documentaire de Raymond Depardon, 12 jours, qui filme les audiences. Alors, il y a quelques années maintenant, donc c'était vraiment au début de la pratique, il y a certaines nouvelles pratiques qui ont changé, mais enfin, c'est vraiment un moyen d'avoir accès à ces audiences-là. Puis vous avez la trilogie de Nicolas Philibert sur la psychiatrie dont je vous ai parlé, qui vous montre aussi un petit peu ce document. Il y a une question.
Alors moi, j'ai travaillé en France, en fait.
Peut-être que vous pouvez rappeler juste votre fonction.
Je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs, plus à Moissel, à l'association. Et je me demandais si vous vous prenez que des gens qui n'ont pas de mesure de protection.
Alors, pour les hospitalisations sous contrainte, en fait, on est de permanence. Il y a une permanence qui est organisée par le barreau du Val-d'Oise. Et donc, c'est le bâtonnier qui nous désigne. Donc, il nous dit, par exemple... vous ferez l'audience de lundi matin à Pontoise.
Mais alors, pareil, alors, j'ai deux choses qui m'interpellent, moi, c'est parce qu'en réalité, il me semble qu'on dit plus d'hospitalisation sous contrainte. Et je sais que c'est le terme le plus facile à dire parce que les nouvelles appellations sont
faciles. Alors, on dit hospitalisation. Oui. Alors moi, c'est le terme que j'utilise, c'est hospitalisation d'office dont on ne parle plus, mais on continue à parler d'hospitalisation sous contrainte.
Sans contrainte.
Ouais. Hospitalisation sans consentement, on me fait remarquer.
Je voulais savoir si,
pur et dur, oui.
C'est que de toute façon, alors je suis d'accord avec vous, on nous met dans les chambres, même nous en tant que mandataire, quand on doit aller à l'équipe signer des papiers, on nous met dans la chambre et puis on ferme derrière nous en nous disant vous faites votre entretien, c'est très particulier. Mais en réalité, le majeur qui peut être des fois en situation de démence, il pourra prendre ce qu'il veut. Enfin, le majeur, la personne hospitalisée, elle pourra prendre ce qu'elle veut.
La question c'est est-ce qu'elle me raconte ce qu'elle veut.
Des fois c'est dur, en réalité la personne peut raconter ce qu'elle veut, vous savez jamais si c'est réel ou pas, on est quand même dans un cadre psychiatrique.
Alors, bon, c'est un peu délicat votre question. Effectivement, la personne elle me raconte ce qu'elle veut. Moi je ne suis pas médecin, hein, donc je tente d'expliquer au cours de mon entretien quelle est la raison de ma présence. Donc dans des termes un peu simples justement parce que la personne elle est complètement, elle ne sait pas ce qui lui arrive. En général on ne lui a pas précisé qu'elle va voir un juge et que donc elle voit un avocat. Donc ça aussi c'est des sources, c'est très anxiogène, ça peut être très anxiogène pour la personne. Oui, aussi, oui. Mais même moi ce que j'ai constaté c'est que même quand les gens sont sédatés, pas tous, hein, mais il y en a, ils ont un besoin de parler quand même, de me raconter ce qu'ils veulent. Hein. Donc effectivement, des fois, ça part dans des délires. Mais moi, je suis là, c'est mon rôle à moi. Voilà, qui peut paraître étonnant, mais je considère qu'effectivement, la personne a le droit de s'exprimer. Voilà. Il n'y a pas que des gens qui délirent, il y a des gens qui présentent des fragilités psychologiques, c'est sûr, mais qui ont quand même besoin de s'exprimer, et c'est l'occasion aussi dans ce parcours qui est compliqué, dans cet enfermement qui est compliqué, qu'il puisse s'adresser à moi et que je puisse lui dire qu'il va pouvoir aussi s'adresser et dire les choses qu'il a besoin de dire à un magistrat. Et souvent, effectivement, c'est important pour la personne de dire... voilà, moi, je suis à côté d'une personne qui n'arrête pas de crier toute la nuit, j'ai pas le droit à des visites, enfin bon, voilà, tout un tas de choses, mais ça peut être aussi des réflexions, des choses qu'il dit à moi ou au magistrat, et qui fait que le magistrat va questionner quand même le service hospitalier sur les conditions de l'enfermement.
Vous n'êtes pas sollicité pour l'audience des majeurs dont vous vous occupez pour assister aux audiences.
Moi, j'avais une question sur votre expérience, mais est-ce que finalement, en tant qu'avocate, puisque notre sujet, c'est quand même d'aborder ça sous l'angle du genre, est-ce que vous avez une posture différente selon que le patient va être un patient ou une patiente, et surtout, c'est vraiment une question qui m'intéresse, mais est-ce que vous percevez des biais de genre chez les magistrates ou les magistrats qui interviennent en hôpital psychiatrique? Est-ce qu'il y a des stéréotypes ou des préjugés par rapport à la maladie mentale selon que ça touche un homme ou une femme?
Non, moi, j'ai pas constaté. Non, je trouve que le magistrat, enfin, en tout cas, les magistrats à qui j'ai affaire font leur travail correctement. Et je constate pas ça. Non. Je réfléchis, mais
Et sur votre position à vous, est-ce que vous avez...
Alors moi, oui. Alors je dirais, je vais rejoindre ce que vous avez dit. C'est vrai que lorsque j'ai affaire à une femme, j'essaye quand même, c'est des fois difficile, hein, avec ce public-là, mais au moins de lui demander si ça se passe bien. Donc là, j'ai en tête, par exemple, une jeune femme qui me dit, et là, je vais un peu rebondir sur ce que vous avez dit aussi, parce que c'est,
donc qui me dit mais ça va pas du tout, j'en ai un qui m'agresse, il vient, il me crie dessus, enfin bon, mais c'était vraiment, ça m'avait l'air disproportionné quoi. Je me suis dit mais bon ok, peut-être que c'est pas génial, mais c'est enfin bon ce qu'elle est en train de me décrire. Et en fait si. En fait, elle ne me mentait pas du tout, puisque dans le service, en sortant, je croise l'infirmier. Donc là, je suis à Beaumont, c'est Beaumont. Je croise l'infirmier, je dis, écoutez, cette jeune femme me dit que... Elle me dit, ah, et je vois le monsieur dont il s'est passé. Et en fait, il était effectivement... il faisait très peur, quoi. Et donc, je croise l'infirmier, je lui dis, mais voilà ce qu'elle vient de me dire, est-ce que c'est vrai ou pas? Et dans le même temps, arrive cet homme... et là, il me confirme qu'effectivement, il faut qu'ils voient, mais ils sont en manque de personnel, c'est compliqué, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de machin. Enfin bon, voilà, les trucs habituels, voilà. Mais moi, dans mon rôle d'avocat, en tout cas, oui, quand c'est une femme, je prends quand même le temps d'essayer de voir s'il n'y a pas une difficulté liée voilà, à son genre. Ouais, oui. Bah oui, c'est ça. On voit vraiment la différence quand même, hein, je dirais, il y a une différence entre les différents services de psychiatrie. Hein. À Beaumont, par exemple, j'ai eu la surprise la dernière fois, c'était très sympathique. Je suis arrivée donc, pour voir, j'avais une dame à voir. Et puis, quand je suis rentrée dans ce couloir, il y avait comme un petit canapé. En fait, il n'y avait que des femmes. Et ça avait l'air super sympa quand même, elles discutaient entre elles. Donc je les ai interpellées une fois que j'avais fait mon entretien, et donc la dame avec qui je m'étais entretenue finalement est partie s'asseoir elle aussi autour de ce petit salon. Et donc je me suis arrêtée et je leur dis mais ça a l'air très sympa là, ce que vous racontez. Donc elles étaient, voilà, elles étaient entre elles, hein, elles étaient très contentes d'être entre elles et donc d'échanger comme ça. Dans leur enfermement, en tout cas, voilà. Ça, c'était à Beaumont. Donc, bon, c'est très bizarre, Beaumont. Hein. Vous arrivez, on dirait un thriller, quoi. Les bâtiments, mais en fait, c'est les. Bon, la première fois que j'y suis allée, je me dis, où suis-je ? Les anciens bâtiments désaffectés. Donc, vraiment, il fait noir, les vitres sont cassées. Je me dis, où est-ce que. Et en fait, il y a un nouveau bâtiment qui est tout au bout. Et là. Et c'est sûr, hein, voilà, quand c'est neuf, c'est quand même autre chose que les couloirs de Moisselles, quoi. Les couloirs de Moisselles, c'est juste l'enfer. Hein. C'est vraiment l'enfer. Hein.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, moi, j'aurais juste une question pour vous, madame. Est-ce que vous, en tant que MJPM, vous constatez soit des pratiques différentes, soit des biais de genre par rapport à la protection des majeurs, dans la façon en fait d'exercer la fonction de MJPM, est-ce que vous voyez des différences selon le genre des personnes protégées?
sur la rétention ? D'accord, j'enchaîne sur la rétention. Alors, sur la rétention, sur les femmes, plus précisément en rétention. Donc alors là, j'ai quand même envie de vous dire que là, c'est vraiment un sujet qui... je regrette que la magistrate nous ait quittés, parce que le problème, quand on arrive, donc l'avocat, quand il arrive dans un centre de rétention, en fait, on est en fin de parcours, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans la procédure la plus urgente, que la personne vient d'être placée en rétention, qu'on arrive dans les 48 heures, qu'en fait, la préoccupation de l'avocat à ce moment-là, ça va être d'essayer de trouver les moyens de nullité pour faire sauter la rétention administrative, et que donc là, on est très loin d'avoir le temps de pouvoir s'entretenir avec notamment la femme qu'on a devant nous et de tout son parcours migratoire. Parce que on en parle, mais alors pas du tout. Du parcours migratoire de la femme et des difficultés qu'elle a rencontrées au cours de son parcours migratoire, mais alors, je vous le dis, comme je le pense, tout le monde s'en fout. C'est extrêmement compliqué de défendre aujourd'hui les étrangers, et notamment les femmes étrangères, parce qu'en fait, c'est hyper frustrant. C'est-à-dire que, vous l'avez repris, hein, quand on se retrouve avec une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français, un placement en rétention, et qu'en fait la base, c'est l'obligation de quitter le territoire français, ça faisait suite à une demande d'asile et que la personne a été déboutée. Donc imaginons une femme qui vient de traverser je ne sais pas quel continent, qui a subi, je vais quand même vous reprendre quand même les violences dont on parle, mais qu'elle n'a pas été entendue à l'OFPRA, donc on l'a débouté de sa demande d'asile, que cette demande d'asile que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, et que donc juste après se retrouve avec une obligation de quitter le territoire français, qu'on la place en rétention. Vous imaginez en fait cette femme qui en fait ne ment pas, a subi des violences, mais dont on ne reconnaît pas le statut de réfugié. Je ne sais pas à quel moment en fait on l'entend, quoi. Voilà. Je ne sais pas comment ces femmes-là en fait arrivent encore à trouver le courage en fait jusqu'au bout de cette souffrance, mais en fait qui est une souffrance psychologique. On parle d'enfermement, la physique. Mais en fait, là, c'est au-delà. C'est-à-dire que vous avez l'enfermement physique, mais vous avez également un enfermement psychologique. Parce que vous imaginez quand même une femme qui a fui je ne sais quel pays parce qu'elle a subi un mariage forcé, des violences sexuelles, etc. Enfin, bon, il lui faut quand même déjà un certain temps pour pouvoir libérer sa parole. Donc, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Et là, vraiment, moi, ça m'hérisse le poil, quoi. C'est-à-dire que on n'en parle pas en fait de ces femmes-là. Alors justement, c'était là, oui, tout à fait. Mais tout à fait. Ou nous, voilà, de dire, c'est vrai, parce que c'est vrai que ces femmes en fait qui portent leur parole. Heureusement que le HCR est là. Heureusement que vous êtes là, heureusement que les organisations non gouvernementales, je pense à Amnesty International, est là, parce que sinon on n'entendrait pas leur souffrance. Donc voilà, et donc juste vous dire qu'à ce moment-là, nous, l'avocat qu'on aime, en fait, on a malheureusement pas la possibilité de venir expliquer au magistrat, donc au juge des libertés de la détention, quel a été le parcours de la femme, parce qu'il s'en fout complètement. Lui, il va juger une procédure qui consiste à dire est-ce qu'on maintient la rétention, est-ce qu'on expulse, et donc la réponse va être oui, il y a une obligation de quitter le territoire français, donc voilà, c'est bon, c'est fini, ce que la femme a subi, on s'en fout complètement. Je finirai juste par ça, parce que quand même, moi, je veux mettre ça en avant, que vous ayez... j'ai retrouvé un peu la liste des violences dont on parle. et qui sont invisibles complètement et que très très peu dénoncées. Donc vous avez les violences subies dans le pays d'origine. Donc voilà, viol, harcèlement sexuel, grossesse forcée, torture, emprisonnement, atteinte aux libertés fondamentales d'une façon générale. Vous avez également les violences pendant le voyage vers le pays d'accueil, puisque en général ces femmes sont prises en charge par des passeurs. Donc nous parlons là d'attaques sexuelles. Vous avez également des enlèvements et échanges par des trafiquants et donc de l'esclavage sexuel, qui est une monnaie d'échange pour payer son voyage. Vous avez également, donc quand on arrive, on est dans la plus grande précarité, donc les violences dans le pays d'accueil, j'en citerai qu'une, c'est l'exploitation sexuelle épisodique en échange d'un logement ou d'une assistance de nourriture, hein, ça on le voit également, je pense à une dame que j'ai défendue, qui était sans papier, qui avait trouvé un travail de femme de ménage, donc non déclarée forcément, dans un hôtel à Argenteuil. Donc c'était un marchand de sommeil, et qui a clairement fait comprendre que il ne la dénoncerait pas et il lui donnerait un peu d'argent et en échange elle a dû subir plusieurs viols avant qu'elle ait le courage, cette femme, d'aller dénoncer les faits. Mais c'est très très rare, hein. C'est très 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 rare. Que je suis en train de vous dire, c'est
qu'elle dénonce,
qu'elle dénonce, que ces femmes dénoncent ce genre de fait, parce que vraiment elles sont dans la plus grande précarité, donc évidemment elles n'ont qu'une peur, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, qu'en allant déposer plainte, elles sont sans papier, qu'elles se fassent arrêter, et puis évidemment elles ont besoin de manger. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de un peu pêle-mêle de ce que je voulais vous dire, mais oui, nous sommes là effectivement pour dénoncer. Merci beaucoup de nous permettre également de le faire devant cette jeune génération. Merci. Alors, en général, à la demande d'un tiers, donc le tiers, ça va être effectivement un membre de la famille. On voit souvent le parent, le conjoint, la sœur, le frère, quelqu'un de proche quand même. Mais peut-être que vous faites éventuellement référence aux procédures abusives, hein, mais justement, le contrôle du magistrat, il est là pour ça, mais le dossier qui nous est fourni, quand même, nous avons les certificats médicaux, hein, ça ne se fait pas comme ça, juste parce qu'il y a une demande de la famille, il y a un premier certificat médical des 24 heures, des 72 heures, donc il y a toute une procédure à respecter. Et puis, ce qu'on constate souvent quand même chez les gens pour qui on intervient, c'est que souvent c'est un parcours psychiatrique bien plus ancien, qui a déjà eu des hospitalisations et qu'une nouvelle fois, il y a une rupture de traitement qui a entraîné l'apparition des symptômes de la maladie qui font que la personne est admise aux urgences et sur cette base-là.
Avant.
Oui.
C'est
aussi quelque chose que j'ai du mal à percevoir. Autant pour la rétention administrative, c'est très clair.
Bah alors, il y a plusieurs cas. Il y a vraiment beaucoup de cas, mais puisque votre interrogation, c'est à la demande de la famille, je dirais le parcours classique, c'est un membre de la famille, bon, ça va pas du tout, arrive aux urgences, est admis aux urgences psychiatriques, et voilà, et les choses se mettent en place comme ça, hein, mais c'est pas je fais un courrier. Alors, il y a quelques cas de procédures abusives, hein, de conjoints, voilà. Bon, mais c'est pas... C'est
non, parce que moi,
l'exception,
c'est vrai que
quoi.
Ce que je connais en histoire de droit, pas du tout en positif, c'est plutôt simple, très réduit. Donc, effectivement, comme Catherine l'a rappelé, sur des périodes antérieures, c'est encore plus inexistant, en fait.
C'est une des choses qu'on dit d'ailleurs, je vous coupe, pardon, c'est une des choses qu'on... Je vous parlais de l'entretien qu'on mène avec la personne, on me disait qu'elle était... mais même quand elle est un peu délirante, moi, c'est quelque chose que je dis, parce que je considère que la personne doit savoir, enfin, doit comprendre les motifs qui ont... Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans son dossier, ce que disent les médecins, pourquoi elle est là, qui l'a demandé, notre rôle, il est là.
Utile assez vite ou ça serait pire pour la personne parce que à titre personnel quand on n'est absolument pas dans le milieu médical on n'a absolument aucune conscience du temps que ça peut prendre.
Ça c'est aussi très lié à l'état des hôpitaux psychiatriques actuellement, enfin je veux dire je pense que et à la pathologie
C'est ça. En fait, le juge est saisi dans le cadre de la poursuite de la mesure. Et donc, là, ça fait référence à un autre sujet. Et donc, nous, les avocats, nous n'avons pas tous la même façon de voir la problématique. La problématique est la suivante. C'est-à-dire que, je vous donne un cas concret, si je vois que la personne est complètement délirante, mais que je vois une nullité dans le dossier, est-ce que je la soulève ou pas ? Donc, vous avez certains confrères qui vont la soulever.
Avec l'idée qu'ils demandent une libération. En fait.
Ouais.
C'est ça qui préside à leur demande.
C'est ça. Et puis, vous en avez d'autres qui ne soulèvent pas les nullités, comme vraiment vous avez... Enfin, qu'on voit bien, de toute façon. Mais quand c'est sur le fil, du coup, ça peut permettre de demander une main levée de l'hospitalisation. Mais c'est très bizarre comme intervention.
Ouais. Et on va dire, je sais pas, en moyenne, sur, par exemple, une centaine d'interventions, combien de personnes sont restées hospitalisées sans consentement ?
Alors, le principe, c'est que quand même, la mesure, elle est maintenue. Et ça reste quand même assez rare qu'on demande et qu'on obtienne une main levée. Oui. Il n'y a pas que ça comme nullité, il y en a plein des nullités, mais personnellement, je ne les soulève pas automatiquement. Si je vois que la personne, c'est un risque pour elle-même ou pour autrui, voilà.
Alors, je ne suis pas médecin pour vous répondre à ça, mais moi, mon rôle, c'était de dire que la dignité de cette femme enceinte, et surtout dans le cadre dans lequel elle était, n'était pas du tout bénéfique justement pour elle et pour son enfant. Donc, j'ai considéré, moi et le magistrat m'a suivi, qu'il lui fallait un autre cadre pour une femme enceinte de 8 mois qui, dans un service psychiatrique, c'est vraiment pas du tout adapté, quoi. Ça ne l'était pas du tout. Hein. Alors, je ne me souviens pas ce qui avait été mis en place. Ça remonte un peu là, mais en tout cas, je sais que le magistrat avait demandé au médecin de prévoir quelque chose qui soit plus en adéquation avec son état du moment que sa chambre à l'hôpital psychiatrique. Quoi. Et j'en ai pas entendu parler après, donc c'est que tout s'est bien passé.
Et peut-être pour percevoir, j'ai évoqué la magistrate Isabelle Roy, elle a écrit des ouvrages je trouve assez accessibles. Donc ouais. Pour percevoir peut-être un petit peu ce que vous disiez sur les questions de dignité, d'engagement des professionnels dans le soin, dans la dénonciation positive, etc. Je pense que ça peut faire partie aussi des lectures. Par lesquels on peut accéder à ce monde-là aussi, sur la fameuse dénonciation positive.
Ouais. Elle a notamment écrit sur les femmes en prison, où elle avait pu. Oui.
Ouais. Elle milite son dernier livre s'appelle Juger l'impunité.
Voilà, ouais. Sur les violences. Ça peut être aussi une autre façon, une autre paire de lunettes.
Mais ouais. En fait, je rejoins un peu ce que nous a dit le médecin. On est quand même très frustrés, souvent on est frustrés parce qu'on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut, on ne peut pas faire comme on veut. C'est très compliqué à vivre sur un plan personnel parce que, j'imagine... quand on devient médecin ou quand on prête serment, quand on devient avocat, on a plein d'idées dans la tête en se disant on va défendre, on va... Et en fait, des fois, on se dit, on me met du scotch sur la bouche et je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Mais on continue quand même, ça veut dire qu'on a envie que les choses, quand même, elles soient dites et on essaye de trouver les moyens de vous les dire pour que vous puissiez prendre ce relais, vous, demain, dans la profession que vous allez avoir. Mais faut jamais baisser les bras et faut continuer le combat, quoi. Sinon, tout ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. C'est un message que je vous passe.
Je crois que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup.